Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
De Gameblog.
De Gameblog, absolument.
Il y a plein de Gameblog.
Bah oui, je le dis tout le temps, mais faut le rappeler, hein, faut mettre la marque en avant un petit peu.
Gameblog.
Nous avons aussi en invité aujourd'hui Olive Roy du Bocal.
Bonjour.
Le fameux Olive Roy du Bocal.
Ouais.
De Cahors, ouais, dans le nord de la France.
Dans le nord de la France.
Absolument. Et Cyril Drevet, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous pour ce podcast.
Voilà, salut.
J'espère
à tous.
Que ça va.
Cyril Drevet, de Gameblog,
voilà.
De temps en temps.
Exactement.
c'est encore
deux turbos.
Une particule encore plus. Ouais.
Et si nous avons ces deux personnes avec nous, c'est parce qu'aujourd'hui, ça va parler bagnole. Et ça va parler bagnole à un niveau stratosphérique,
et
comme
jeu,
dirait notre rédacteur.
Jeux vidéo aussi, quand même.
Bah, pas trop, non. Non, on va pas parler jeux vidéo. Si, on va parler jeux vidéo, évidemment, puisqu'on va d'abord parler jeux de voiture aujourd'hui. Ça va être, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des trucs sur les jeux de bagnole d'ailleurs. Hein,
les jeux de voiture.
Sur Gameblog. Mmh. On va parler jeux de voiture, on va parler volant aussi. Vous pouvez le voir si vous êtes premium. Eh bien, il y a pas mal de petits volants qui sont sur notre table. On va en parler aussi du matos qui est nécessaire ou pas nécessaire. Hein, ça sera une question qu'on va se poser également. Puis on parlera aussi un petit peu d'avenir à la fin de ce podcast avant évidemment de finir avec les hors-jeux de la semaine. Le point sur les jeux de course du moment. Alors, j'ai envie de vous demander, messieurs, quels sont les jeux de course qui, en ce moment, font l'unanimité, quel que soit le type de jeu. Hein. Je parle pas de Mario Kart, qui est le jeu de course le plus...
Ouais.
Mario Kart, oui, qui est le jeu de course le plus vendu de tous les temps. Mais, malgré tout...
Mais n'est pas un jeu de course.
C'est pas vraiment un jeu de bagnole dans le sens
c'est
où on l'entend.
C'est un jeu de course, mais pas un jeu de bagnole.
Voilà.
Ça, c'est clair.
En jeu de bagnole, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, du Drive Club, du Forza, du Project Cars. Parmi ceux-là, c'est lesquels qui ont vos préférences à tous les trois ?
Il y en a trois.
Alors,
pour moi, il y en a trois principaux.
Pour moi, il y en a deux
et
pour l'instant.
Il y en a trois principaux et un qui arrive.
Allez, d'accord.
On peut le dire comme ça.
Et celui qui arrive.
Non,
celui
on peut
qui
pas
arrive.
Dire comme ça. Non, mais vas-y.
Dis-nous.
Bah, il y a quand même les deux grands classiques qui sont au moins pour console, qui sont Gran Turismo et Forza. Hein.
Mais sauf que Gran Turismo, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Là.
Ouais,
pour
Turismo,
l'instant, non, mais il est encore vivant. Il y a quand même Gran Turismo
6.
6 il est là.
Tu peux toujours y jouer. Hein.
Ouais,
il se passe
sûr,
des choses. Il y a toujours des DLC qui sortent, des packs. Des... Mm. Tu peux toujours y jouer. Hein.
Ouais, mais est-ce qu'il a trouvé vraiment son public, celui-là, comparé aux autres
Alors,
éditions?
Il n'a pas du tout trouvé son public, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute du 5, en fait.
Mm.
C'est-à-dire que je pense que tout le monde n'a pas acheté le 6 parce que tout le monde était déçu du 5, alors que c'est dommage parce que justement fallait pas acheter le 5 qui était une vraie daube,
qui avait été livré plus ou moins en kit un peu,
ouais, livré en kit, livré 7 ans après. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit scoop là-dessus, mais
tu vas nous livrer ça après.
Et alors que le 6 lui règle tous les problèmes du 5 et un plutôt bon Gran Turismo à mon avis.
D'accord, mais il est jouable que sur PS3.
Il est jouable que sur PS3.
Ouais.
C'est
ouais, il est jouable que sur PS3.
Il a son défaut.
Alors, il a aussi la particularité d'être sorti après la sortie de la PS4,
oui,
une semaine après, donc il y a l'effet, tout le monde avait les yeux tournés vers la nouvelle
Exactement.
Machine de Sony, et finalement, la PS3 était plus là, quoi, quasiment plus là, dans la
Mais
tête des gens.
Alors, j'étais il y a encore deux semaines chez Polyphony Digital avec Kazunori.
Ça la raconte quand même pas mal. Hein,
et je lui ai demandé justement ce qu'il s'était passé sur GT5.
Ouais. Et il t'a dit la vérité?
Et il m'a dit.
Les yeux dans les yeux.
Alors, je vous avouerai que je l'ai regardé comme ça tellement je m'y attendais pas. Uh-huh. Effectivement, il m'a dit la vérité. Il m'a dit franco de port. Il m'a dit sur GT5, on a eu un gros problème. C'est que la PS3 était impossible à programmer.
C'est une certitude.
Qu'on en a chié. Alors, il l'a pas dit comme ça, vous en doutez.
Ouais.
Mais qu'on en a chié grave. Et que on n'a jamais vraiment réussi à dompter la PS3 jusqu'au 6.
C'est pour le 6, effectivement, ils avaient toutes les clés en main et c'était plus facile du coup. Ah, quel dommage.
C'est une certitude parce que cette série-là, elle a toujours vraiment beaucoup évolué, elle a toujours très très bien fonctionné. GT1, GT2, GT3, l'énorme gap, GT4, c'est un jeu monstrueux, et GT5, c'est une version à peine HD. Enfin, il est joli, il a de belles qualités,
ouais,
mais tout le gameplay, il n'y a rien de beaucoup mieux.
Tout un tas
mieux,
de polémiques,
quoi.
Je me souviens à l'époque, parce que tu avais les voitures premium et les voitures non premium. Quand tu jouais avec une voiture non premium, tu
n'avais
pas les mêmes
ça
vues,
sera toujours
etc.
Le cas.
Enfin bon, il y a eu pas mal de petites déceptions comme ça qui ont
entaché
la sortie.
On sent qu'ils ont vraiment eu du mal à le sortir et que du coup, à l'arrache, ils ont pu faire les cockpits pour les voitures. Les
c'est
nouvelles
ça.
Voitures et ils avaient été obligés de récupérer les voitures, les anciens modèles, les anciennes modélisations version des anciens, mais qui eux n'avaient pas de cockpit.
Afficher, donc, on a 900 bagnoles.
Voilà, donc ils ont mis tout ça.
Mais du coup, vous y jouez encore à Gran Turismo 6, vous?
Eh ben ouais.
Moi aussi, j'étais 6. Ah ouais. Oui, mais c'est honnêtement, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Hein, c'est un super jeu, j'étais 6. Hein. Il y a plein de trucs géniaux dedans.
Alors, un peu moins maintenant que de nouveaux jeux sont arrivés, mais bon, déjà, à chaque fois que je teste un volant, je prends le temps de tester avec GT5 et GT6 parce que ça reste des jeux plaisants. Puis il y a plein de bagnoles, quoi. Y en a plein.
Un petit bémol sur ce que tu viens de dire. Alors, c'est vrai que Forza 6, Project Cars et tout ça ont amené un vent de fraîcheur. Mais il y a toujours quand même dans le 6 cet esprit Gran Turismo, ouais, qui avait disparu dans le 5 d'ailleurs, avec ce déroulement un peu particulier de Gran Turismo, cet univers, cette façon de construire son garage, la façon de passer les permis, etc.
Ça reste en tout cas la référence dans le cœur de plein de joueurs, mais pour moi, le gros défaut, parce qu'on parle souvent de technique, de la physique des voitures, c'est pas très important, de la technique. On est sur une PS3, effectivement, on n'est pas sur une PS4. Il y a un truc qui va pas du tout dans Gran Turismo 5 et 6, c'est que c'est la course du lièvre, quoi. C'est-à-dire qu'on a des lévriers qui courent après le lapin, là. Vous voyez cette course-là, où en fait, t'as une voiture qui part premier, qui se met à
trajectoire établie,
deux tiers de tour d'avance, et puis toi, t'as trois tours pour la rattraper. Mmh. Et toutes les courses sont comme ça. Elles sont toutes comme ça.
Bah, de toute façon, il y a des défauts récurrents depuis le tout premier épisode, qui était vraiment invisible à l'époque, tellement le jeu révolutionnait tout ce qui avait été fait jusqu'alors.
Le fameux problème d'IA avec les voitures qui sont sur rail. Alors,
il y a le problème de l'IA que tu viens de citer.
Parce que c'est forcément un vrai problème. Si, parce que si tu regardes les courses de GT, elles sont toutes dans la même
trajectoire. Mais là, il y a une espèce de côté vraiment calculé du truc, etc. Il y a l'époque
qui était terrifiant dans le 5. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez l'IA du 5 où les mecs arrivaient et te sortaient carrément. Hein, si
Il y a des gros problèmes dans Gran Turismo.
Dans le 5, c'était.
Il y a des gros problèmes dans Gran Turismo.
Tu étais tout seul, tranquille.
Il veut pas m'aider par
les mecs arrivaient. T'as
joué au projet.
Allô. Il y a des gros problèmes dans Gran Turismo qui sont les mêmes depuis le début. Et qui sont ces problèmes d'IA monumentaux et le poc-poc des voitures qui s'abîment pas, etc. Enfin,
mais il y a plein de défauts.
En 2016,
de toute façon, les sonorités sont à la ramasse. Alors, il y a GT Sport qui arrive là, 2016, peut-être. Donc, il y a plein de choses à corriger. Il y a plein de choses.
Pour moi, Gran Turismo, il a deux qualités majeures. C'est l'esprit GT, comme tu disais, que tu retrouves et jamais dans Forza.
C'est clair, parce que c'est un voyage.
Et c'est une espèce de RPG, en fait.
Exactement. Et la progression dans le jeu, elle est très bien faite. Alors, Forza, au bout d'un moment, ça devient répétitif.
Il y a ça et les modèles physiques qui sont d'une kiffance incroyable.
Alors, j'ai un bémol là-dessus parce que pour moi, Gran Turismo, et c'est marrant, j'en ai parlé avec Kazunori et hors caméra, il me l'a avoué qu'il était d'accord. Pour moi, Gran Turismo s'est arrêté au 3. Pour moi, le meilleur,
4 quand même, c'était du lourd. Quand tu étais sur le Nürburgring et que tu sentais à très haute vitesse.
Nürburgring.
Comment tu dis ?
Nürburgring.
C'est ce que je veux dire ?
Oui.
Nürburgring.
À peu près.
Et quand tu étais dessus et que tu étais à fond la caisse avec une vraie bagnole de GT et que tu sentais toutes les aspérités de la piste avec les potentielles pertes d'adhérence, etc., c'était phénoménal. Moi, j'avais jamais vécu ça dans aucun jeu de voiture.
D'accord.
Et il y a très peu de jeux de voiture qui s'approchent de ça.
Je suis d'accord, mais je pense qu'on va en parler à un moment ou
un
autre
dans ce
podcast. C'est un débat sans fin. C'est que une simulation, ça doit pas être trop réaliste non plus.
Bah oui.
Et ce que je trouvais dans le 3, c'est que pour moi, le 3, c'est la meilleure balance entre plaisir de conduite et réalisme.
Au sein même de Gran Turismo, parce que la meilleure balance pour moi de tous les jeux confondus,
PGR
c'est Forza.
C'est
Forza, mais à des années lumière.
Je suis pas d'accord.
La meilleure balance plaisir.
Ça dépend. Alors, il y a Forza.
Moi, je trouve qu'on oublie
Forza 5. Il y a Forza 5 qui était une pure tuerie et qui, justement, je suis d'accord avec toi avec ce mélange-là.
La balance.
Mais il y a une série qu'on oublie, je trouve, un petit peu quand même. Il y a une série qui, elle, a parlé toujours de réalité exagérée, c'est Grid, quand même. Qui est une série
Grid,
qui vient de revenir, là, il n'y a pas très très longtemps.
Grid était un jeu surkiffant à jouer.
Voilà. Grid, tous les jeux Codemasters.
En fait, je reviens juste sur ce que tu viens de dire, parce que t'as dit quelque chose qui est juste parfait. C'est le réalisme, ça ne sert à rien. De la course au réalisme. Il y a beaucoup de gens qui se battent qui se battait déjà, PS3, Forza versus Gran Turismo, a expliqué que les virages n'étaient pas tout à fait comme s'il y avait trop de survirages, il y avait trop, comme si les joueurs ils connaissaient quelque chose à ce que c'était que d'être dans une bagnole. Et les jeux sur console, sur PC, ne rendent pas du tout de la vérité.
Exactement.
On cherche le bon compromis.
C'est toute la problématique, c'est que justement les jeux qui essaient d'être trop réalistes et qui... pour ça, parce que c'est le grand jeu maintenant, reprennent carrément les modèles physiques des constructeurs, reprennent les datas des constructeurs, quand ils mettent ça dans un jeu...
Même quand ça concerne le diesel et que c'est trafiqué
Vaste blague.
Ouais. Pardon, je suis chez Volkswagen aussi, pardon.
Ça fait pas des jeux réalistes. Parce
ça
que
fait pas des
tout,
jeux sympas à jouer.
Et alors là, parce par que exemple, vous parlez de Project Cars là, par exemple.
Ah, exactement. Bah, j'allais en venir là.
Alors je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et moi je suis pas d'accord du tout.
J'allais y venir.
Ah bah alors tu étais pas d'accord avec ce qu'il en
alors,
dire,
si,
alors.
Je suis d'accord avec ce que tu dis que, qu'aller chercher le réalisme total. Non, moi je crois que le réalisme total n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un réalisme, il y en a plusieurs. T'as le réalisme des modèles physiques. C'est-à-dire que on a la réaction des pneus, l'adhérence, le survirage, sous-virage. Rage, accélération, tous ces trucs-là, ce ne sont que des paramètres. Après, il y a plein d'autres choses. Attends, t'as juste deux secondes, j'ai tout préparé, ça fait une semaine que j'y pense.
Ouais, vas-y,
si tu me plantes,
j'ai l'impression qu'il se passe un truc entre vous deux. Alors, vous ne connaissiez pas, il y a une
heure. Mais non, mais il a le track, j'ai l'impression
qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Moi qui le connais, parce que comme je suis comme plein de game bloggers, je suis issu de la communauté, et donc j'ai grandi avec Cyril à la télé, avec Julo qui écrit des textes, avec toi aussi, donc ouais, ça me fait quelque chose.
Non, t'as pas grandi avec moi, ça, je peux te dire que.
J'ai grandi avec toi, mais fut un temps où je lisais vos trucs. Donc moi, ça me fait quelque chose.
Poursuis ta démonstration.
Pour dire. Donc déjà, il y a la réalité physique, il y a la réalité visuelle. Ce que voit un pilote quand il est dans une bagnole n'a rien à voir avec ce que vous verrez quand vous aurez votre écran sous les yeux, aussi réaliste soit-il. Rien à voir.
Mais pour une raison très simple, c'est que il y a un moment, faut pas oublier une chose, c'est qu'on conduit pas une voiture, on conduit un jeu vidéo.
C'est ça.
Donc forcément. Ce n'est pas la réalité, ça ne sera jamais la réalité, c'est une interprétation de la réalité. Alors après, est-ce que c'est où on place le curseur de cette interprétation?
C'est ça.
Et moi j'ai la chance via Turbo de pouvoir essayer la quasi majeure partie des voitures sur piste ou sur route qu'il y a dans ces jeux-là, et je peux vous certifier qu'on est assez loin.
Oh mais même
très loin, pour une raison très simple, et je le répète souvent ici à Gameblog, je vais encore me répéter, mais c'est pour la bonne cause, notamment, et là je te rejoins vraiment sur Project Cars, c'est un cas typique, dans la réalité, les voitures ont énormément plus de grip que dans les jeux. Et Project Cars a voulu être trop réaliste à mon goût, et t'as des voitures qui sont notamment extrêmement les tractions sont complètement sous-vireuses.
Ça c'est pas vrai dans la réalité.
Pour le freinage, parce que moi j'ai été marqué par ça les peu de fois où j'ai fait du circuit sur des bagnoles, en plus c'était des Porsche 911 qui étaient complètement boostés, tu vois, et ben au niveau du freinage c'est beaucoup plus facile de freiner dans la réalité
que
ce qu'on fait dans les jeux où c'est là où c'est hyper poussif, t'es là bah merde j'ai freiné un quart de seconde trop tard,
mais parce que aussi tu n'as pas toutes les sensations du freinage,
c'est ça, t'as surtout pas l'impression de vitesse.
Tu n'as pas les jets négatifs de la décélération.
Bien sûr.
Tu n'as pas les vibrations. Tu n'as pas toutes ces sensations-là.
Mais donc, il faut adapter le jeu, comme tu disais tout à l'heure, c'est une interprétation,
c'est une simulation.
Exactement. Et donc, il faut peut-être rendre plus facile pour rendre plus réel.
Et voilà, c'est ce que je défends depuis très longtemps.
Et moi, c'est peut-être là que d'un seul coup, on va plus être d'accord. C'est que pour moi, le meilleur jeu qui fait ça, c'est Forza, parce que Forza, tu le prends, tu fais joujou avec les gâchettes entre le frein et l'accélérateur,
et
tu rattrapes facilement toutes ces petites erreurs.
Aujourd'hui, les productions, elles sont de super bonne qualité. Globalement, ça fait une génération qu'on a.
Oui, enfin,
moi, j'ai pas vu une daube en jeu de caisse depuis un petit moment. Et
le WRC5, il est pas terrible.
Je sais pas qui l'a testé. Ça.
Mais justement, les jeux de rallye.
Je crois que celui qui l'a testé a mis 2 sur 5.
Excuse-moi.
Les jeux de rallye, oui.
Mais tout ça pour dire que c'est une histoire juste de curseur et de goût de chacun. Moi, par exemple, je prends plus de plaisir aujourd'hui à jouer à Project Cars à Assetto qu'à Forza.
Assetto Corsa, oui, effectivement.
Plutôt qu'à Forza, et En même temps, quand j'ai des potes qui viennent à la maison, on va plutôt jouer à Forza parce qu'il est plus accessible. C'est vraiment juste une histoire
de curseur. Et Drive Club, il se situe où là-dedans depuis la sortie qui est catastrophique jusqu'à aujourd'hui.
Drive Club, il sort de ce débat et tout de suite quoi.
Mais non,
il
n'a rien à foutre. Attends, mais
Drive Club,
je sais qu'il n'est pas d'accord.
Attends.
Sachez que Julo me connaît par cœur, donc il troll comme un malade.
Non mais Drive Club a été mis à jour des tas de fois et visiblement il s'en sort très bien aujourd'hui. Il
est très joli. Exactement. Alors déjà, Drive Club a eu un peu l'effet GT5, c'est-à-dire qu'il est sorti pas terminé.
En pire, il a fait mieux que le maître.
Attends, le jeu en lui-même était terminé, mais au moment où gens ont pu aller en ligne, parce que moi je l'ai testé avant la sortie, tout marchait très bien.
Le jeu était pas totalement terminé. En plus, les serveurs étaient pas taillés, pour l'aventure. Donc avec ce qu'on sait qui s'est passé,
il a foiré son lancement.
L'IA était chaotique, mais chaotique.
Maintenant, de mise à jour en DLC, c'est un sacré jeu. Et moi, j'ai toujours défendu ce jeu.
La grimace de l'olive.
Sachant que ce jeu n'a rien à voir avec les jeux dont on parle.
Oui.
C'est-à-dire que il y a d'un côté les Forza Horizon, Drive Club, Need for Speed et compagnie qui sont.
Oh là, Need for Speed, tu peux même.
Des jeux de course qui sont. On parlait de
Mario Kart, Wipeout.
Non, quand même pas. On parlait de The Crew,
ouais,
etc.
The Crew, ouais.
Qui sont des jeux à part, c'est des jeux d'arcade avec des pépites de simulation dedans. Moi, je défends Drive Club parce que je trouve que c'est un jeu d'enfer. J'aime pas les mondes ouverts en voiture.
Pareil.
Donc les Forza Horizon et tout ça, ça me branche pas. Et Drive Club, je retrouve l'effet Burnout qui pour moi était un jeu d'arcade, certes.
Arcade pure, génial.
D'arcade pure. Pur, pardon, mais de folie où t'avais la sueur qui te perlait dans les derniers niveaux parce que tellement ça allait vite. Si tu savais très bien que sur une course, si tu touchais la moindre haute voiture ou le moindre bord du circuit, tu savais que tu pouvais pas finir dans les temps le tracé, donc t'étais dans un état de tension extrême.
Et le fait vient de là.
Et ben, Drive Club, je retrouve ça. Dans Drive Club. Donc c'est un très bon jeu.
Non mais déjà je suis content
d'arcade.
De t'entendre dire voilà que c'est un jeu d'arcade et qu'il n'y a rien de réaliste dans la conduite et tout ça.
Tu peux pas comparer avec Forza,
il y a des gens qui
disent
ça. Moi je sais pas d'où ils sortent
mais non, ça n'a rien à voir.
Et par contre là où t'as raison, c'est que c'est un assez bon jeu d'arcade. Moi ce que ce jeu avait de génial, c'est la dimension communautaire
club,
des défis.
La dimension club, elle est d'enfer.
Génial.
On s'est retrouvés tous les deux dans les mêmes clubs.
Donc il est beau. Premier club du monde au moment où j'ai sorti Gameblog. Mais en même temps, tout le monde a un peu de mal à jouer. Non, mais on avait engrangé quand même. Et il est beau. Mais je veux dire, à part ça. Voilà.
Ouais, pareil, la conduite, je la trouve vraiment, vraiment insipide. Quoi.
Je trouve que moi qui suis un fan de Burnout, on est très loin de Burnout quand même, au niveau du fun brut que ça pouvait avoir.
Mais en fait, il va vers Forza Horizon, vers un moteur physique qui serait un petit peu réaliste. Mais le problème là, c'est plus un problème de plaisir. On le voit dans les forums, ça scinde vraiment en deux. Il y a ceux qui aiment pas et il y a ceux qui.
Mais si tu me trouves dur, je serais beaucoup plus dur avec le dernier Need for Speed que je trouve à chier.
Oh oui, totalement. Alors. Pour revenir à ce qu'on disait.
Non, j'exagère. Oui. T'as pas remarqué qu'on exagère tout depuis tout à l'heure là.
Pour revenir à ce qu'on disait sur la simulation et justement sur ce côté manque de grip des jeux, il y a les cas extrêmes. Tu parlais de WRC, c'est les jeux de rallye. Les jeux de rallye où t'as l'impression d'être sur une patinoire. Je suis désolé, hein. J'ai déjà été en passager avec Loeb ou avec d'autres pilotes de rallye.
Ça raconte. T'as déjà fait le trophée Andros ou pas? Parce que moi, j'adorerais faire un truc comme ça.
Pareil. Hein.
Non, le trophée Andros, j'ai pas fait. Mais le trophée Andros, c'est sur de la glace.
Bah ouais,
là,
pour le coup, tu retrouves ce que t'as dans les jeux.
Ça, j'adorerais faire ça.
Et je peux vous promettre que ça glisse pas comme dans.
Pas autant.
Comme dans les jeux. T'as vraiment du grip. D'ailleurs, t'as des ingénieurs qui passent leur temps à trouver le grip ultime pour
en
les
fait
caisses.
Ils ont un souci.
C'est
non, mais
c'est là où Colin
McRae
était fantastique, hein, parce que je trouve que Colin McRae jouait très bien entre les phases de grip, les phases de glissade, etc.
Non mais ils ont un vrai problème avec les jeux de rallye, c'est que ça se passe à plutôt petite vitesse. Donc il faut donner envie de jouer avec cette impression de vitesse.
Oui, l'impression que quand t'es à 50 km voilà. dans un virage qui est quand même assez balèze, ça va super vite. Ouais.
Exactement. Donc ils ont ce problème là, c'est qu'ils exagèrent énormément, ils essaient d'exagérer la vitesse et du coup cet effet là de grip, de surgrip, tu l'as pas quoi.
Et tu introduis une autre problématique des simulations qui est l'effet de vitesse.
C'est clair.
Et l'effet aussi, ce manque de grip, de survirage, etc., c'est aussi parce que souvent les jeux gèrent très mal l'effet de vitesse par rapport à la réalité.
Ouais, exactement.
Et donc, forcément, tu rentres tu rentres trop vite dans les virages parce que ton impression de vitesse n'est pas, est pas ouais. la bonne.
Mmh.
Et,
c'est
le,
ça.
Et pour moi, celui qui a un très mauvais effet de vitesse, c'est Project Cars. Je trouve que l'effet de vitesse ouais, est vrai. Très mal rendu
je
dans
suis
le
d'accord.
jeu.
Et à ce sujet, parce que là, il y a un truc intéressant, je trouve.
Dans le... va, il n'y a que des trucs intéressants.
J'ai
Peter,
pas d'action
hein.
chez eux. Mais...
autre truc assez intéressant, donc le, tu parlais du, tout à l'heure du rendu de ce que voit un vrai pilote et ce qu'on voit à travers un jeu. Oui. Et ce que tu viens de dire là, bah, il y avait un jeu qui avait testé des trucs assez intéressants, c'était Need for Speed Shift.
Shift, oui.
Voilà, parce que comme
avec
vous
la
savez
caméra dynamique.
Peut-être, ouais. quand tu es à l'arrêt dans un cockpit de voiture, tu as une vision normale qui est à 180 degrés. 180 degrés, c'est, on est très loin de la petite télé qui est devant ta gueule.
C'est sûr.
180 degrés et ça passe, je crois, à 60 degrés quand tu es à pleine vitesse.
Oui. Sans compter les mouvements.
Et quand tu voilà. prenais les virages, effectivement, ta tête exactement. se oui. mettait vers le
alors
virage.
Ça, c'était une fausse bonne idée.
Ils le font tous maintenant. Ouais. Ils ont tous.
Moi, je trouve que c'est génial comme idée.
Ça dépend comment c'est géré. C'était très mal géré.
Quand tu allais très loin, ils te montraient le début du virage. Que
c'était
encore dans la ligne droite.
C'était très gênant parce que tu avais l'impression que tu tournais le stick de
la vue. Quand tu as des, quand tu es dans des voitures qui accélèrent très fort, alors pour moi les caisses, ce que j'appelle les voitures qui font mal à la ouais. tête.
Ah oui, c'est je
les,
vois ce que oui.
c'est les voitures qui font moins de 4 secondes au c'était du, ça, au 0 à 100.
À Los Angeles quand tu m'as pris dans la voiture, c'était
non,
une voiture comme ça,
non elle est beaucoup moins
ouais.
vite.
D'accord.
Non, mais t'as la tête qui balance
Camaro
quoi.
Camaro ça accélère bien. Ouais,
ça avait l'air oui.
Notamment dans une Veyron quand tu accélères c'est vrai que ton champ de vision se réduit un peu parce que tu prends tellement de G et tout.
Il y a un effet de vue de poisson quoi. Il existe cet effet de vue de poisson quand tu accélères. Mmh, dans l'accélération et même dans le ralentissement, tu as cet effet inverse. Mmh.
Mais il y a peu de jeux qui osent le faire de manière très prononcée.
Il y en a qui en abusent. Ben, Forza le fait pas mal. Hein. Forza fait plutôt bien. Mmh.
Mais je trouve qu'il devrait encore plus balancer la tête. Et alors ça, c'est un truc que j'adore dans Project Cars, c'est que on peut pas lui enlever. Les mecs, c'est des fous, ok. Ils ont dit on va faire le jeu de bagnole ultime et ils ont vraiment fait ça au niveau des options. Quand tu vas dans les options de Project Cars, tu peux tout faire. Ouais. Tu te dis j'ai un volant, bah je fais disparaître le volant ou je le fais pas disparaître. J'approche ou je recule la tête dans le cockpit. J'augmente ou je baisse les balancements de la tête, etc., etc. Quand tu vas dans les menus Project Cars, tu fais. Wow.
C'est imbuvable pour le joueur occasionnel, mais par contre pour celui qui aime ça, tu peux aller très très loin.
Tu peux tout faire.
Et c'est là que tu vois que quand tu mets les vibrations réalistes, c'est injouable. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo d'un mec qui fait une course, son casque il fait ça. Hein.
Bah,
il
n'arrête
pas,
hein,
il vibre à fond.
Oui, sauf que les yeux humains font la.
Voilà. Oui, voilà. Ouais. C'est pour ça que moi je suis pas trop pour
la
que
latence,
je suis
naturelle.
Pas trop pour que les concepteurs de jeux essaient d'implémenter ça.
Il faut pas qu'ils abusent, c'est
parce
tout, en
que
fait.
Alors ou s'ils le font que ce soit une option comme tu voilà. le dis qu'on ait le choix. Parce que de toute façon un mec qui est habitué aux simulations de lui-même ces effets-là je veux dire il en a pas besoin quand t'es vraiment habitué aux simulations et que t'as un bon jeu de course que justement le curseur dont on parlait tout à l'heure est bien réglé, t'as pas besoin de tous ces artifices,
c'est ça.
Hein.
Bien sûr,
c'est ça, c'est exactement ça, c'est
curseur donc plaisir réalisme quoi.
Mais oui, et moi je le disais tout à l'heure, un des jeux de course qui m'a le plus éclaté, c'est PGR3, Project Gotham Racing 3
sur Xbox 360.
Et cette balance était incroyable, tu pouvais prendre une Gallardo, tu pouvais drifter avec une Gallardo, mais c'était une glisse qui était hyper où je retrouvais vraiment les sensations de la réalité, tu vois. T'avais l'effet de vitesse qui était assez fou. Je me souviens quand tu prenais la F50.
Ouais, et puis il était fou.
Le circuit, je sais plus, New York, où t'avais le long.
Cyril,
fais
attention, oublie pas le micro. On t'entend.
Non, en fait, c'est pas dynamique.
Il y a pas d'incompatibilité entre un jeu arcade et qui a un gameplay profond. En fait, le problème d'un Drive Club, et ça c'est mon problème avec ce jeu-là, c'est qu'il c'est un jeu d'arcade. Je peux l'accepter. Je l'ai acheté.
Indéniablement.
Day One. Bon, j'y ai joué dès 90, mais je l'ai acheté Day One parce qu'après les serveurs sont tombés. Mais grosso modo. Si le gameplay avait été un peu plus profond, je me serais sûrement amusé. C'est vraiment une histoire de.
C'est ça qui était formidable, moi je trouve. Alors vous aimez pas les mondes ouverts dans un jeu de voiture, mais ce qui est véritablement formidable dans Forza Horizon, c'est qu'ils se sont dit on va utiliser les modèles physiques de Forza en les rendant juste un peu plus bateau, et on va faire ça dans un monde ouvert, dans un jeu totalement débile où tu peux jouer avec d'autres au chat et à la souris, passer à travers champs, etc.
Moi j'ai pas dit que c'était un mauvais jeu.
C'est
Forza Horizon.
C'est le côté totalement débile qui passe pas chez moi.
Ouais, le fait de passer à travers champs.
À travers champs, tout ça, bah ouais, ça y est,
faut aimer les jeux. Ouais, c'est un jeu fun, quoi.
Mais
ils ont mis des modèles physiques intéressants.
J'aurais aimé la conduite de Forza
dans
Horizon.
Drive Club.
Dans Drive Club.
Bah, ça aurait été génial.
Là,
ça aurait été fantastique.
Moi, ce que j'aime pas dans les mondes ouverts et tout ça, c'est que quand tu es fan de simulation de conduite, quand tu es fan de jeux de course, quand tu aimes autant la course auto que le jeu vidéo, ce que tu as envie, c'est d'aller faire des courses. Tu vois, aller se balader pour trouver des missions, des machins et
c'est
tout.
C'est pas des missions, c'est des courses.
Non, moi, c'est le concept d'embranchement.
C'est du temps que tu perds. T'as vu, tout de suite, d'aller au combat. Quoi.
Et bah, tu passes par le menu et tu vas tout
des,
tu
des vois, Burnout Paradise, j'étais c'était impossible pour moi. Burnout Paradise, pardon. C'était un jeu où t'avais plein d'embranchements. Tu devais, comme dans GTA, t'avais un point B, tu devais y aller et tu devais choisir à peu près ton chemin.
Oui,
et
c'est la formule checkpoint.
Je n'y arrivais pas, quoi. C'était impossible. De me concentrer sur
en fait ce que vous voulez. Imaginez un FPS où t'es obligé de te balader pour aller trouver la mission. Alors tu vas me dire, ouais, c'est Far Cry. Et où tu rentres dans une mission et là enfin tu peux tabasser les mecs. Tu vas dire, mais ce que je veux, c'est aller.
Bah non, tu vas pas me dire ça parce que t'aimes bien Far Cry.
J'aime bien Far Cry, mais où t'as envie de faire des headshots direct, tu vois. T'as pas envie de te balader pendant
un jeu. Chacun ses goûts, mais on peut pas nier que apporter des modèles physiques de ce calibre, bien qu'en les rendant plus abordables, dans un jeu arcade, c'est assez cool.
Forza Horizon 2 est un super jeu. Hein. On n'a pas dit le contraire. Hein.
Et alors, grosso modo, on peut peut-être les classer un petit peu parce qu'ils ont tous ces jeux-là, ils ont quand même un panel qui va de plus simulation à plus arcade. Tu prends Forza, il va vers très arcade, quoi, quand même. Quand tu mets tous les curseurs, il est très arcade.
C'est un équilibre.
Et quand tu le mets en simulation, il va très simulation.
Ah oui, tu parles des réglages là.
Ouais. Au niveau des réglages.
Mais c'est ça qui est génial dans Forza, c'est qu'en plus, c'est pas un curseur tout à gauche ou tout à droite, c'est que tu prends chaque élément et tu peux déplacer un curseur par élément et trouver une conduite idéale.
Projet 15 va beaucoup moins vers le grand public. C'est un jeu qui s'adapte au moins à monsieur tout le monde, quoi. Bah, par contre,
tu mets Project Cars et Assetto Corsa, c'est une même catégorie. Tu vas mettre Forza et Gran Turismo.
Il balance ça comme ça sur la
tête. Assetto Corsa, je fais ce mot-là.
Il est fini ou pas? Parce que là, on était sur les trois grands principaux.
Assetto Corsa, il est fini ou pas encore?
Il est fini sur PC, il est en train d'être adapté sur console.
Est-ce que tu peux nous faire l'historique d'Assetto Corsa?
L'historique?
Non, mais qu'est-ce qu'Assetto Corsa?
En quelle année?
La plupart des gens n'ont même pas entendu ce nom.
J'ai noté le nom du studio parce qu'à chaque fois je le prononce
c'est un
comme
studio
un, comme
italien.
Un
moi je trouve l'histoire d'Assetto Corsa, je trouve qu'elle ressemble pour l'instant beaucoup à
celle de Project
Cars.
Hein.
Oh, non.
C'est le jeu qu'on entend,
mais il a pas été restarté.
Qu'on entend un peu partout.
Non mais voilà.
On sait qu'il va venir. Hop, il va arriver sur PC, machin. Après, il va
sur console. Un tas de mecs qui adorent la simulation.
Vous allez voir, c'est le jeu. À chaque fois, c'est la même histoire. Vous allez voir, c'est le jeu le plus réaliste. C'est le jeu le plus réaliste de
ça, je suis un peu d'accord que vous allez voir ça va être le jeu qu'on entend à chaque fois.
C'est exactement le
discours
de
Project Cars, c'est quand même vraiment pas mal.
Moi il y a un truc que je trouve fou, c'est que c'est soit les Italiens qui le fassent et les Italiens quand on sait comment ils conduisent vraiment je trouve ça incroyable. Mais bon.
Alors,
après c'est un avis personnel.
Justement, ils conduisent vite les
Oui, ils conduisent mal surtout.
L'Italie c'est le seul endroit où
ils ont de très très belles bagnoles.
Tu es à 200 km/h sur l'autoroute et tu te fais doubler par des Passat PDI. Tu fais c'est génial ici.
C'est tellement ça.
À chaque fois que j'en essaie là-bas, je suis mort.
Moi je suis terrifié à chaque fois que je suis en train de conduire là-bas, donc c'est une autre affaire. Mais
c'est Cuno Simulazioni.
Oui, voilà.
C'est
tu
ça. En fait,
en macaroni dans le texte.
Ouais, c'est ça.
Eh oh, dis donc, c'est raciste ce que tu viens de dire là.
Non, on n'est pas raciste. Ah non, on n'est pas raciste. On est là pour blaguer. On a le droit de blaguer sur les Italiens, c'est tout à fait autorisé. Ça n'a rien à voir avec les races. Non. tout ça pour dire que ce studio-là vient en fait des simulateurs qu'on trouve dans les foires, qu'on trouve sur certains événements sportifs, notamment près. Justement des circuits, ce sont des simulateurs où vous avez une petite F1 qui est reproduite ou une voiture de rallye ou une voiture de
GT,
t'as une Subaru avec un grand écran à l'avant. Eux ils faisaient vraiment ça et ils faisaient justement des modèles physiques pour certains constructeurs italiens.
D'accord.
Donc ils viennent de là. Eux ils viennent
Ferrari pour pas le citer.
Ouais. Ils viennent du monde de l'automobile et ils sont venus petit à petit vers
du
la simulation.
Simulateur professionnel quoi.
C'est ça. Exactement.
Ce qui je vous avouerai moi m'effraie beaucoup mais bon.
Mais il a en tout cas
pour
un
les
succès
raisons
d'estime.
Qu'on assiste jusque là, c'est que
au sujet de Project Cars,
c'est qu'un jeu de course doit avant tout être un jeu vidéo avant d'être une simulation.
Et en même temps, les jeux de voiture.
Mais il y a aussi des gens qui prennent du plaisir.
Ouais,
dans,
moi j'adore.
Voilà.
Moi j'ai pas l'occasion de sortir
les
la voiture
les fans
tous
de Project
tous
Cars
donc,
qui sont peut-être pas qu'on peut-être pas même avis que toi ou moi là-dessus. et plus celui d'Olive, ils aiment bien se faire souffrir un peu. Voilà.
Ouais.
Leur plaisir vient de.
Non,
c'est un plaisir
Project
un peu masochiste,
Cars,
quoi.
Un peu comme dans le foot, hein, d'ailleurs.
Project
aussi,
Cars,
bon.
Qui fait l'essence du jeu, c'est le jeu en réseau, c'est le jeu en ligne, c'est de se bastonner.
Je crois que même
se bastonner.
Tout seul à essayer de faire un bon temps sur tel circuit avec telle bagnole, je pense que tu peux t'amuser aussi.
Il y a un autre jeu dont on peut parler. C'est quand même le jeu en ligne.
Olive.
Ouais, il y a un autre jeu dont on peut parler pour le mettre maintenant dans ce lot-là. Il est encore un petit peu à part, c'est e-racing. E-racing, c'est un jeu qui ne se joue qu'en ligne et qu'avec un abonnement. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un peu le... Ils se prennent un peu pour le haut de gamme. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va y retrouver que des gentlemen parce qu'ils ont un système qui va récompenser celui qui n'a pas d'accident. Du coup, on se retrouve avec vraiment un simulateur. On est vraiment sur un simulateur. On joue à un simulateur. Mmh. C'est plus un jeu vidéo. On joue vraiment à un simulateur et c'est le... Moi, j'y prends du plaisir aussi. J'y prends du plaisir parce que tu vas jouer avec des gens qui veulent absolument essayer de bien faire leur circuit. On parle plus de drift en pleine course parce que ça te boufferait les pneus. Parce que.
E-Racing. Bon, c'est un jeu Apple, mais.
Non, non.
C'est I, donc E-Racing.
I, iRacing.
I.
Ah, c'est un I, d'accord.
C'est un, ouais. Ouais, je l'ai e-racing, comme on dit chez moi. Et donc, ces trois jeux-là, il y a un truc qu'ils essaient de faire, c'est le drama. Il n'y a aucun jeu aujourd'hui qui te met dans la peau d'un pilote de façon correcte. La peur de péter ta bagnole, parce que je peux vous dire, je sais de quoi je parle, parce que moi j'en ai cassé une, donc la peur de casser la voiture sur le circuit, c'est quelque chose. La peur de fin, quand tu es en compétition pour de vrai, c'est encore autre chose, la volonté
pourtant,
de faire le
quand
beau temps.
Tu interviews Greenawalt, le concepteur de
Forza,
lui c'est ce qu'il défend.
Il n'y a pas pire que Forza 6 en termes de drama.
Lui ce qu'il défend justement, c'est que lui il veut rendre quand il fait venir des pilotes chez Turn 10 à Seattle, ou quand il rencontre des pilotes comme Tréluyer qui a beaucoup de... qui est assez pote avec l'équipe de Forza, Benoît Tréluyer qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans. Lui il défend que justement il leur demande pas est-ce que la voiture elle peut passer à 81 km/h plutôt que 80 dans tel virage. Il leur demande au contraire les sensations, la peur qu'ils ont quand ils conduisent aux 24 heures du Mans en pleine nuit. Est-ce que ça altère leur...
Visiblement, c'est pas très bien transcrit d'après ce que nous dit Olivier.
Ouais, dans Forza, grosso modo, tu peux enfin, dans tous les jeux, hein, je mets pas Forza en avant, mais dans tous les jeux.
C'est un gros défaut récurrent, ça. Je sais de quoi tu vas parler.
Tu peux péter ta voiture autant de fois que tu veux, tu peux recommencer autant de
fois
que tu veux. Il y en a même où
y
tu peux revenir
en arrière.
Y compris
d'un championnat.
Exactement.
Mais putain, ils sont où nos jeux d'avant là,
Project Cars, nous, enfin, je joue régulièrement avec un pote, on passe peut-être la soirée entière sur un circuit avec une bagnole. Ça peut arriver parce qu'on est capable de jouer 4 heures à ce jeu-là sur un seul circuit jusqu'à ce qu'on soit capable de faire 10 tours sans erreur. Parce que 10 tours sans erreur, ça veut dire que là, ouais, j'ai des chances de pas casser ma voiture, j'ai des chances de faire un bon temps au qualif et j'ai des temps de faire un bon temps en course.
Sur Gran Turismo, il y a des circuits et certaines courses où si tu fais la moindre erreur,
il n'y a pas de dégâts, ils ont mal géré
Gran
Turismo.
Non, mais tu finis pas premier, donc tu as quand même ce thrills quand même, tu vois, même si c'est pas le freeze de
casser les voitures.
C'est pareil
dans Forza où si tu finis pas
dans Forza, au moins
premiers,
tu casses les voitures.
Ouais, tu peux casser les voitures. Dans Project Cars, tu arrives en 5e, 6e en ligne droite, tu oublies de freiner, tu dis je vais utiliser que les palettes et revenir en seconde,
c'est
casse
foutu.
Moteur.
Là, tu casses tout. Ouais.
Casse moteur. Mmh. Voilà. Et
ça m'a fait Test Drive 2, ça. La première fois que je joue Test Drive 2 sur mon Amiga, j'appuie sur l'accélérateur, moteur épuisé, quoi. Et c'est la première fois que j'apprenais qu'on pouvait passer les vitesses dans un jeu de voiture. Donc, et c'est date, hein, ça date d'il y a très longtemps.
Mais ils étaient géniaux, les deux premiers Test Drive.
Le deuxième où tu pouvais piloter soit une Ferrari, soit une Porsche, si je me rappelle.
Exactement.
Était
Porsche 959.
Très, très bien.
Et tant que vous êtes dans les vieilleries, moi, le thrill dont vous parlez là, moi, ça m'a fait penser à un jeu génial, c'est Toka.
Toka,
il s'approchait un peu de ça. Ouais.
Justement,
Toka, j'avais peur.
De grid,
j'avais peur de casser ma bagnole.
Alors c'est un cas intéressant.
Et c'était complètement, je veux dire, c'était foutu quoi.
Il y avait une vraie gestion. Hein,
il y avait une putain de gestion. Et dans celui qu'ils avaient sorti après, qui s'appelait WTC World Touring Cars, là ils avaient vraiment réglé le gameplay à la perfection. C'était plus aussi dur.
Quand Plume parlait des jeux Codemaster tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, mais effectivement, je voulais rappeler que avant tout ça, il y avait eu les Toka. Et que cette série
était
incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté, mais c'est pour moi le Project Cars aujourd'hui, c'était Toka.
Et quand ils avaient fait Race Driver après, ils avaient essayé de simuler la carrière de pilote, etc. C'est les premiers à l'avoir fait aussi.
Exactement.
C'était des développeurs géniaux.
Et c'était l'époque où ils faisaient les Colin McRae. Bah oui. Rally, tout qui était pour moi les meilleurs jeux.
Ils sont devenus les Dirt aujourd'hui.
Ouais, mais qui sont plus du tout ce que c'était à l'époque.
Mais c'est quand même un point sur lequel. C'est quand même un point, ça, donc le drama, le côté j'ai peur de casser ou j'aime ma bagnole parce que c'est ma bagnole, qui marche très très bien avec Assetto, avec Project Cars et avec iRacing. Parce que justement, t'as ta bagnole et tu peux la garder pendant toute une carrière. Dans Project Cars, vous avez quasiment une carrière par type de voiture, une carrière complète, hein, avec un championnat complet, où vous pouvez finir 3ème puis refaire une saison, finir 2ème ou. C'est ça que j'apprécie le plus dans ces jeux-là. Alors, ok, la conduite, c'est perfectible. Non,
la carrière est assez génialement conçue dans,
ouais, c'est ça.
Dans Project Cars.
Alors, je trouve vraiment dommage qu'on puisse
pas
avoir.
Ce qui est gros défaut de
Forza. Bah voilà, exactement.
Ouais, mais moi, je suis désolé, j'aime pas le moteur physique de.
Vous savez quoi, on va plutôt faire un truc.
Il y a pas de jeu parfait. Hein.
Non, il y a pas de jeu parfait.
Quels sont les jeux qui vous là tout de suite. On va plutôt que de demander un truc général, on va demander à chacun. Vos jeux préférés du moment en fait, en termes de jeux de voiture.
Bon, moi, il y en a deux, donc il y a Forza 6.
D'accord.
Pour le côté fun.
Non, mais
fun.
Tu peux en choisir qu'un, c'est ça le principe là. C'est quel ton jeu préféré.
On va en choisir qu'un. Allez. On va t'obliger.
Alors, je vais dire aujourd'hui, je vais dire Assetto Corsa.
D'accord, Assetto Corsa qui est sorti sur PC pour l'instant,
qui arrive là sur console.
Il y a les impressions de Traz sur Gameblog qui a été voir le jeu, voilà, sur version console donc.
D'accord, Cyril.
Bah moi, j'ai pas encore vu Assetto Corsa, donc je peux pas m'exprimer. Vous l'aurez compris, je suis pas un fan de Project Cars. GT6, j'adore. Alors après, je suis partagé parce que j'adorais Forza 5 et je suis pas fan de Forza 6. Donc, mais Forza 5, il était sur 360. Donc,
Forza 4.
Forza 4. Donc Forza 5, oui, moi Forza 5.
Forza
parce que
5.
Le 6, je sais pas. Bon, en plus, moi j'ai. Tu le sais plus, j'ai un gros souci, c'est que
tu ne joues qu'avec
avec la croix de direction, ce qui n'est
possible
sur beaucoup de jeux maintenant. Désormais, Forza Horizon, c'est le cas, etc.
Et ça, c'est ton côté vieux
old
de la
school,
vieille, là,
c'est mon côté old school. Je maintiens que les sticks analogiques, c'est
mais
pas.
Mais faut que tu t'y mettes.
Non, mais il est blasé des volants, il conduit des vraies bagnoles tous
après,
les jours.
Je commence
il veut
à
jouer
mettre
un jeu vidéo.
Non, mais je commence à me mettre au volant.
C'est quoi, c'est vrai, on en parlait juste après.
Et je reconnais que de toute façon, maintenant. Les derniers jeux, Project Cars, c'est vraiment un exemple concret, sont plus tunés pour les volants que pour les manettes.
Tout à fait.
Donc
or,
aujourd'hui,
l'immense majorité des gens, ils jouent avec une manette.
Alors oui, l'immense majorité.
Parce qu'il y a un problème de place quand même. Moi, j'ai ce problème-là chez moi, c'est que je peux pas.
Pour moi,
un jeu
de bagnole, il doit être bon à la manette avant tout.
Et alors, ton
mais
jeu.
Mais on en parlera juste après.
Mon petit Julot.
Bah moi mon jeu préféré c'est Forza 6 et pour quelle raison? Pour justement le fameux curseur dont on parlait tout à l'heure qui pour moi, et là on parle de goût personnel je pense avant tout,
complètement,
est beaucoup mieux réglé, me donne plus de plaisir de jeu que Project Cars qui est beaucoup plus performant sur plein d'autres sujets. Et encore, on ne parle de Project Cars que sur PC parce que ne me dites pas une seule seconde que Project Cars
j'accuse.
Sur console est meilleur que quelque autre jeu de voiture.
Si.
Il n'est pas développé pour
sur
les PS4, consoles, il
n'a
pas été optimisé
bien.
Pour les consoles.
Ouais,
il déconne sur console, il est buggé sur
faux.
Console et j'y ai joué sur PC, c'est une tuerie.
Mais tu y as joué récemment encore. Alors sur PC c'est une tuerie.
Non, mais
ça,
j'ai laissé tomber quand même. J'ai le jeu à la maison, j'y joue pendant des semaines et à chaque fois que je freine, le son se coupe.
Tu joues sur Xbox
Sur Xbox One.
Mais tu vois que c'est...
Et sur PS4 c'est un peu mieux. Mais on n'atteint pas du tout le niveau de la version PC.
Mais
ah
tu
non,
vois que
si t'as pas un PC,
c'est assez personnel.
Faut pas choisir Project Cars.
Parce que rejoue à Forza 5 et tu verras. Moi je trouve que le curseur était beaucoup plus idéal sur le 5 que sur le 6.
Ah moi je trouve pas.
Je trouve que justement sur le 6 ils ont voulu de nouveau être trop réaliste. On perd en grip, on perd en.
Ouais, mais alors le 6 c'est déjà. Alors parce que mine de rien, on n'en parle pas. Mais ça fait partie du délire. Il est beaucoup plus beau.
Il est magnifique.
Le 6. Forza 6 est très
beau
par
rapport
au 5.
Le 6, il a tombé.
Voilà.
Graphiquement, il a
ça
tombé.
Compte,
le 6.
Ça compte. Les sensations de jeu sont quand même plus ou moins les mêmes. C'est vrai qu'on peut préférer le 5 ou le 6. Moi, je préfère le 6. Mais globalement, moi, c'est le feeling Forza, le fait de pouvoir tout régler dans la jouabilité. Mon fils peut jouer à Forza.
C'est ça qui est dingue.
Et moi, je peux m'éclater avec tout
activé.
Et je ne sais
pas si vous avez
etc.
vu le trailer de GT Sport là, à la Paris Games. C'est ça que j'ai
parlé de dire.
Voilà.
Il le dit clairement. Hein, c'est de 7
Cazenori
à 77
le dit,
ans.
Il le dit de 7 à 77 ans et l'image c'est un adulte et un enfant. Qui vont jouer l'un après
l'autre. Moi mon fils peut jouer à Forza sans problème.
Donc c'est,
quand j'active
vers là
tous
que
les
tout le monde
trucs.
Va quoi.
Et dernière chose tout de même, Forza a un problème. un vrai problème depuis le 3, je crois.
Ouais.
La carrière est chiante.
On peut pas jouer à la Croix-Direction.
Non, mais la carrière est chiante.
Il y a un autre truc.
T'allais dire autre chose ?
Il y a un truc qui.
Mais moi, pour moi, c'est le gros défaut du jeu parce que Gran Turismo me manque terriblement quand je joue à Forza. À cause de ce mode solo,
parce que
moi je suis pas du genre à aller jouer en ligne et tout, je m'en fous.
Et
moi,
pareil. Et voilà. Effectivement, le mode solo de Forza, c'est la grosse problématique.
Tu cliques sur des icônes, tu fais des championnats.
Et
en plus, tu peux les recommencer.
Et ça revient éternellement. Voilà. Et c'est les mêmes courses, c'est les mêmes voitures. Et
pour moi, le jeu idéal, en fait, c'est
juste un peu
Forza,
plus difficile.
Forza 6 dans le
dans les sensations.
Dans les sensations
et le gameplay. Forza 6, il manque pas grand chose.
Avec le mode carrière, soit d'un Gran Turismo, soit d'un Project Cars, c'est quand même très bien foutu aussi. Voilà, et là je suis aux anges.
Et pour s'éclater, moi je rajouterais, parce que tu m'as demandé de poser la question, Drive Club quand même.
Ouais, j'ai bien compris que
mais juste pour
bien
s'éclater
aimer.
Pour le thrills, quoi, tu vois, et puis pour voir des belles bagnoles, et puis tu vois, s'éclater.
Ouais, parce que c'est important aussi quand même d'avoir des belles voitures dans ces
jeux.
C'est
pour ça que sur le coup des dégâts, moi je suis assez.
Partagé.
Je m'exprime jamais trop là-dessus, parce que effectivement, si on veut du vrai réalisme, si on veut ajouter.
Ah bah, dans un vrai challenge, tu mets les dégâts à fond, tu tapes, c'est fini.
Voilà, c'est sûr que si tu veux ajouter du vrai challenge et être vraiment comme dans la réalité, vaut mieux qu'il y ait des dégâts, pour sûr. Et c'est vrai que Gran Turismo a été tellement en retard là-dessus. En revanche,
ce qui est chiant, c'est qu'il s'obstinait tout le temps.
Voilà. En revanche, ça reste quand même un jeu vidéo. Et moi, ça me fait mal de voir ces belles caisses cassées et ça m'embête.
Alors
quoi.
Ça, c'est l'argument de Kazunori Yamauchi pendant des années. Il dit je veux pas casser des belles voitures.
On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le drama, la fleur de casser, ne pas les casser.
Tu disais ça comme ça. La réalité, c'est qu'il avait des deals avec les constructeurs et que les constructeurs lui interdisaient.
Et les mêmes constructeur, le deux aux autres.
Non,
c'est bizarre.
Parce que les autres sont arrivés après, ils ont eu des deals après.
Moi, j'imagine parfaitement Kazunori Yamauchi au cinéma en train de regarder Fast and Furious, en train de chialer quand il voit la moindre cascade. Mais bon, c'est une autre histoire. On va passer à la deuxième partie parce que, évidemment, on parle beaucoup de jeux de voiture. On peut parler maintenant des conditions pour jouer aux jeux de voiture. On a évoqué un petit peu le fait qu'on joue à la manette, etc. Mais imaginons, on va prendre moi. Voilà, je commence à me mettre aux jeux de voiture. J'ai vraiment envie de m'impliquer dans les jeux de voiture. Oui. Mais là, ça y est, la manette, j'en ai marre. La croix directionnelle, j'y arrive plus. Le stick analogique, j'en peux plus non plus.
C'est de la daube.
Je voudrais passer au volant.
Les gâchettes, ça sert à rien.
Et là, maintenant, si je veux passer au volant, est-ce que, 1, ça vaut vraiment le coup ? Et 2, est-ce que ça va être dans mes moyens ? C'est les grandes questions que je me pose et je me tourne vers toi, Olive, parce que t'es un peu notre spécialiste.
Ouais, c'est un peu ce qui a motivé le podcast à la toute origine.
Oui,
exactement.
Parce que ça fait 2 ans que je vous tanne.
C'est un dingue de volant, Olive, et vous pouvez aller sur son blog voir les tests de volant très pointus. Et il nous a ramené un matos de fou, et notamment le Fanatec, mais je crois que t'en parleras dans un second temps.
Il a ramené du lourd, mais au sens propre.
Dans tous les sens du terme.
Ça pèse.
Mais je te laisse répondre à la question.
Non, mais il y a un PC en fait dans un des volants. Non, c'est pas possible.
Ah bah,
on dirait presque, hein, on dirait presque.
Ouais, il y a un ventilo et tout, c'est un truc de fou.
Ouais, parce qu'il faut que ça soit silencieux, puissant. Enfin, il y a énormément de choses là-dedans.
Déjà, le cliché, c'est je veux jouer au volant, il faut que je me ruine. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
C'est vrai. Oui, c'est vrai parce que.
Même avec les entrées de gamme.
C'est vrai, c'est pas vrai. Tout dépend de.
Moi, je veux un volant qui me donne des sensations, tout bêtement. Donc, j'ai pas envie de. Enfin, j'imagine que maintenant, tous les volants ont des retours de force.
Alors en fait, moi j'ai commencé avec un volant qui existe toujours, c'est le Driving Force GT. Donc c'est un volant qu'on trouve encore vraiment pas cher, qui fonctionne très très bien, mais qui s'arrête au PC et à la PS3. Donc si vous voulez jouer sur ces plateformes-là, qui pour la PS3 en tout cas est un peu ancienne, ça coûte vraiment pas cher. Aujourd'hui on le trouve pour 100 balles, il y a un retour de force, c'est un classique, c'est une ancienne génération.
Pédalier
donc...
avec embrayage ou pas ?
Non, là on est sur du pédale. Attendez, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à voir.
Laissons-le parler.
Donc grosso modo... Ça peut aller de 100 balles à trop cher.
Mais trop cher, c'est quoi comme pourchette ?
100 balles, mais tu te fous de moi ?
Non, 100 balles.
Non mais 100 balles.
100 balles, t'as quelque chose de très moyen.
100 balles et un Mars.
Ah, c'est quoi ?
Eh ben, tu as justement le Driving Force GT qui aujourd'hui
coûte
100
euros. Oui, mais pour jouer sur PS3.
Et sur
c'est
PS4.
Là, c'est bon, allô, ça fait 2 ans qu'on est sur PS4.
Mais c'est plus d'actualité. Tu peux, mais c'est plus d'actualité.
Ok, on va dire ça, c'était la première option.
Sur
si PS4, tu joues sur PS4,
sur PS4 Xbox One, PC, tu as le T80 et le T355 Ferrari.
Mais c'est des instruments, ça.
C'est exactement ça.
Donc ça, c'est
les Thrustmasters. Les Thrustmasters, faut le dire, c'est quand même des assez bon volant.
Ouais, alors ceux-là, attention, ils n'ont pas de retour de force. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un retour de force non dynamique. C'est-à-dire, c'est une.
C'est
une
résistance.
Élastique, quoi. Mmh. C'est un élastique, voilà, c'est ça.
Mais c'est bidon, non ?
C'est pas mal quand t'as que ce budget-là.
Mmh. C'est quoi le budget ?
Ça vaut, là, tu les trouves à 80 balles sur Amazon aujourd'hui.
80
ouais.
Ouais. D'accord.
T'as le volant et t'as le pédalier.
Non, autant jouer à la manette. 300, là, non
alors, ouais, parfois autant. Alors, par exemple, Forza, autant jouer à la manette.
Autant jouer au
Arcade,
même.
Les vibrations de la manette Xbox One sont tellement intéressantes pour le gameplay que prendre un volant qui, lui, ne va pas vibrer, ça n'a pas vraiment de sens.
Tu perds quelque chose.
Sur Drive Club, ça le fait très très bien, justement. On a un réglage de sensibilité et on arrive à jouer à Drive Club dans très bonnes conditions et à même à plutôt bien scorer avec, avec ce type de volant. Mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Pour avoir un volant qui pète
qui
bien, il
chose.
Faut mettre le cran au-dessus, c'est 200 balles. On a un volant retour de force dynamique. Donc là, je cite par exemple le T150 Thrustmaster qui a un retour alors, à l'ancienne, c'est-à-dire une génération de moteur. Enfin, en tout cas, le prix mis sur le moteur n'est pas exceptionnel, mais les sensations sont très bonnes et surtout on a la possibilité.
C'est une génération de moteur, c'est-à-dire que c'est des moteurs à l'intérieur qui vont créer la résistance du volant en fonction de ce qui se passe à l'écran.
Exactement ça.
D'accord.
Ta roue de volant,
c'est intéressant. Moi, j'essaie de le découvrir.
Ta roue de volant est sur un axe. Cet axe, il est fixé à un moteur. Ce moteur est fixé à un cerveau. Enfin, il est fixé. Ce moteur est connecté à un cerveau.
D'accord.
Et en fait, les réactions du volant vont être captés, parce qu'il y a les capteurs, vont être captés, envoyés à la machine, le PC, la console, et en échange, les réactions de ta voiture à l'écran, de ce qui se passe dans le jeu, vont être envoyées au cerveau moteur, et le moteur va te retranscrire ça. Donc ça veut dire qu'il y a les vibrations, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le retour de force, puis en plus, il n'y a pas qu'un seul retour de force, il y a le retour vers le centre, la force d'une voiture qui est imposée, les chocs, il y a énormément de types de forces différents. Donc un volant, c'est de toute façon l'accessoire le plus complexe qu'on trouve dans ces prix-là.
Est-ce que ça a du sens aujourd'hui?
À partir de cette catégorie-là,
pour tous les
jeux, à 200 balles, je me suis éclaté. Le T150, c'est un modèle qui...
Thrustmaster, hein, tout ce qui commence par T quelque chose.
Ouais exactement, Thrustmaster.
T500
Après, on monte en prix.
Si on peut voir pour les gammes supérieures.
Ouais, attends, on va le faire.
Alors, on reste sur le T150. Voilà, qui est à 200 euros. Celui-là, il est livré avec un pédalier sans...
Pédalier en plastique, donc on est sur une première gamme de pédaliers.
Parce qu'on faut pas le nier, c'est très important le pédalier aussi. Parce que les pédaliers très légers qui te glissent sur la moquette et tout,
alors,
c'est chiant.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est même capital. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut investir assez cher dans un volant. Parce que le pédalier, là, on voit ton pédalier qui est
le Fanatec.
Ce qui se fait
faut
de.
Que tu puisses. Pour que ça soit bien,
faut qu'il y ait du poids.
Faut qu'il y ait du poids, faut qu'il y ait de la résistance, faut que tu puisses gérer à ton goût la résistance, à ton goût ou en fonction des voitures.
Et évidemment que la pédale de frein soit plus résistante que.
Voilà, le font grosso modo toutes. Mais
l'embrayage pour moi est très important aussi.
Et surtout, si vous avez déjà expérimenté un volant, vous le savez, déjà, faut que le volant en lui-même il soit hyper bien fixé,
calé. Ouais.
Le mieux, c'est d'avoir évidemment
une table dédiée sur laquelle
siège,
on peut le visser.
Non, mais même
un siège. La base des bases, c'est ça, c'est les conditions dans lesquelles tu vas jouer.
D'avoir au moins un playseat et puis plus si affinité budgétaire.
Voilà. Mais ce que je voulais souligner, c'est très bien que vous le détaillez parce que ton truc à 200 balles, pour moi, ça vaut toujours pas le coup.
Alors,
parce
si
que le pédalier
bureau,
est pas bon.
Ouais, tu joues sur un. Alors non, mais le pédalier suffit. Non, le pédalier suffit à 200 balles. Surtout
il est
que le pédalier
plastoc, il est
sur ce modèle-là, sur la série Thrustmaster à partir du T150, tu peux changer le pédalier. Ça te coûte 100 balles de plus. Donc, t'arriveras à 300 balles. Mais tu peux avoir un pédalier 3 pédales, beaucoup plus lourd avec.
Mais 300, ça c'est pas 300 le T.
Ça c'est 300 avec le petit pédalier.
Non mais il faut pas se leurrer.
Non mais il y a deux.
Je veux dire,
tout,
si tu veux correctement, faut mettre 600 balles. Et puis voilà. Il y a un moment, faut être
réaliste. Il saute un palier direct, Cyril.
Il y a plein de choses. Déjà, il y a les conditions dans lesquelles tu joues. Si tu joues occasionnellement sur ton bureau, ça va le faire avec un petit système ou avec n'importe quel volant. Moi, aujourd'hui, je joue au Fanatec sur mon bureau ces temps-ci parce qu'il fait trop froid pour jouer dans le cockpit qui est dans une salle qui n'est pas chauffée. C'est l'hiver. Par contre, donc moi, j'ai mis un Fanatec sur un bureau.
Tu t'es créé ton propre cockpit.
Oui, on peut parler un peu du Homemade, d'ailleurs. Il y a des tutos pour faire des trucs Homemade.
On me l'a demandé et franchement j'ai la flemme, c'est 4 planches de bois quoi, c'est vraiment 4 planches de bois un cockpit hein, avec des...
Alors, comment tu t'es débrouillé? T'as pris un vrai siège auto que t'as installé quelque part?
Moi j'ai commencé sur la table basse du salon, je me suis pété le dos parce que ça c'est vraiment pas le truc à faire. Jouer dans de mauvaises conditions c'est nul. Ensuite j'ai joué au bureau, donc un bureau taille standard, ça doit faire 60-70 cm. C'est pas mal, hein. On arrive à bien s'installer, il faut vraiment avoir un siège qui est bas, c'est la seule condition. Ensuite... Tu as le PlaySeat, les petits. T'as plein de systèmes qui sont de petite taille. Alors le PlaySeat, ça vaut quand même son prix. Je crois que c'est 350 balles, quoi.
Oui, mais c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, mais t'as en une entrée de gamme,
tu rajoutes ça au milieu du volant.
Ouais, hein. T'as une barre au milieu. Mais en entrée de gamme, c'est
la
pas
barre
mal.
Au milieu, c'est chiant ça. Hein.
C'est vraiment chiant.
La barre entre les deux jambes.
T'as des systèmes à moins de 100 balles où tu seras, où tu pourras en plus le ranger facilement. Ça prend pas de place. Tu pourras jouer sur le canapé. Si vous voulez voir d'ailleurs un cockpit pour canapé que j'ai fait, vous allez dans Google, vous tapez cockpit canapé. Mm-hmm. Vous allez tomber sur mon petit frère qui est sur son fauteuil en train de jouer. C'est un truc en bois rouge.
Mais je crois savoir qu'on nous vendait aussi des solutions de sièges déjà faits avec juste les enceintes fixées derrière, un peu comme dans les bandes d'arcade.
Ouais, c'est le même principe que.
Et ça, ça vaut le coup aussi ou pas, ce genre de choses?
Tout vaut le coup, tout dépend du budget que
tu as. Sachant qu'on n'a pas les sensations, évidemment.
Non, ça vibre pas. Hein. Ouais. À ce prix-là, ça vibre pas.
Et en sachant que ça monte jusque les plus belles installs, elles font 30 000
les trucs
euros,
sur Vérin,
qui défoncent. Ouais,
mais tu peux jouer triple écran
du premier à 100 euros, qui vont bien de 100 à 30 000 euros.
Mais le. Moi, vraiment, la base, hein, c'est que le volant soit super bien fixé. Mmh. Après, peu importe l'environnement.
Et qu'il soit de qualité.
Et que le pédalier, surtout. Parce
voilà,
que
alors le pédalier,
le pédalier
fixé. Parce
faut
que
qu'il
même
soit,
le gros, là, qui
le
vous
béton,
fait rêver, je le mets sur la moquette, j'appuie sur le frein, il s'en va.
Voilà.
Bah ouais.
C'est quoi, tu le vises, du coup?
Voilà. Ah bah oui, tu le vises.
Faut le visser, ouais.
Ah ouais, ouais,
tu dis ça pour plaisanter.
Non, mais tu le vises ou alors. Non, alors, moi pour dire très clairement, comment il s'appelle le Logitech là?
T300.
Le
T300. Il y a le TX
RS,
qui est par là. Là-bas.
Le T300 RS avec le pédalier qui ajoute la troisième pédale que tu rajoutes donc avec le pommeau
le
de vitesse déporté.
Ouais.
Là, je vois une différence de malade.
Ah, mais c'est un truc de fou.
Et
ouais,
je
hein.
kiffe.
C'est un truc de fou.
Ah, et là, on est dans les 300 plus 350 plus.
Il y a un pack,
100.
Je crois, qui doit être à grosso modo 400 plus le pommeau
voilà.
à 150.
Là,
550.
Moi, là,
voilà,
pour moi, tu
on
peux
arrive
dire...
à ce que je disais. Il voilà. faut 600 boules.
Non, mais honnêtement,
les,
pour
les volants
pour 300...
qui sont en dessous, honnêtement, à cause du pédalier, à
non,
cause de
à,
la qualité
à moins de 400
volant,
balles. Alors, le problème, c'est si tu veux un levier de vitesse. Moi, je joue de moins en moins au levier de vitesse.
Ça dépend du jeu auquel tu joues.
Ouais.
Si tu joues à un jeu de course.
Non, mais déjà, un truc, toutes les supercars modernes. Et une bonne partie
les
des
palettes.
Voitures aujourd'hui
ah
ça oui. se joue aux palettes. Donc ah moi oui. pour moi l'embrayage déjà c'est pas
voilà,
c'est absolument
exactement.
Indispensable.
L'embrayage. Alors il y a des techniques à l'embrayage. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pas grand chose.
Pas
surtout
grand
dans
chose.
Les
ouais,
jeux.
Ouais mais alors attends, est-ce que tu fais partie de cette race de gens qui utilisent le pied gauche sur le frein?
Eh ben non, hein, déjà il faut utiliser les deux. Alors quand il y a les trois pédales, on utilise le
non,
pied
non,
gauche
mais avec
et
deux
le
pédales,
pied droit.
Avec deux pédales.
Alors il y a deux choses.
Eh ben ça dépend si t'as la barre au milieu. Mais oui, tu peux utiliser le pied gauche sur le frein en course, sans problème.
Oui, ça se fait dans
parce que
tu vas gagner du temps,
dans
hein,
la
tu
réalité,
vas gagner beaucoup de temps.
Dans la réalité, sur route, la plupart.
L'usager
pied
normal,
droit,
voilà.
Les pilotes de course, eux, c'est pied gauche,
pied gauche, pied droit.
Ah ouais, ils mettent le pied
ah
gauche
oui.
sur le frein.
Il y a plein
mais
de techniques avec
dur,
le frein.
Dans la
foncé,
réalité,
vous avez déjà essayé de freiner du pied gauche dans votre bagnole
ouais, mais sans le faire exprès.
BAM c'est très très dur.
Non, vrai. Mais après, c'est plus facile sur une voiture de course. La plupart des voitures de course, pour freiner, il faut une pression d'au moins 13 kg sur la pédale de frein.
Il faut taper dedans.
Avant de mettre 13 kg du pied gauche.
En tout cas, tu as une première phase. T'as une première phase qui est très très douce et puis après tu sens le moment où là ça va freiner quoi, le moment où les disques se touchent.
D'accord.
Bon. Ok. Et
donc
niveau sensation,
pédales, vous en foutez.
Non mais pour redire là parce que on a l'impression que ça va coûter hyper cher. Alors ça va coûter plus cher.
Alors
que
ça va coûter encore plus cher.
Mais non.
Ça va
coûter
cher. La question que je me pose c'est ça va coûter cher, mais est-ce que ça va m'apporter quelque chose?
Oui, mais c'est monstrueux la différence.
Pas qu'en termes de sensation, je parle en termes de performance.
Alors c'est deux choses différentes, ça dépend des jeux.
Ouais.
Pour ce qui est du plaisir, le jour où j'ai découvert le volant, je me suis dit que je jouerais plus jamais à la manette. Donc je l'ai refait de temps en temps, mais globalement c'est quelque chose de complètement différent. T'es dans une voiture.
Voilà. Même moi qui, tu le sais, a défendu la manette croix de direction depuis longtemps, là je reconnais que de plus en plus je joue au volant et j'avoue que c'est le jour
fun.
Et
ouais.
Et comme je disais tout à l'heure. Les jeux, de toute façon, maintenant, tu prends de Forza
ils sont calibrés pour
les volants. Ils sont calibrés pour les volants.
Pas tous aussi bien les uns que les autres. Moi, j'ai été particulièrement scotché par Project Cars sur
ouais.
PC.
Ouais.
Et de sa compatibilité avec justement les Logitech qui venaient de sortir. Putain.
Mais Project Cars est aujourd'hui
c'était
le
dingue.
Jeu qui gère le mieux globalement tous les volants. Surtout
c'est
parce
vrai.
Qu'il y a énormément de réglages.
Alors que Forza.
Eh ben Forza.
Un peu moins, je trouve.
Alors Forza avec le Fanatec.
Oui, mais pas non, le Fanatec.
Attends,
qui joue avec le Fanatec?
Qui a les moyens d'acheter le Fanatec?
À part Donald Trump, je veux dire.
Donne le, avec un donne le prix du Fanatec, quoi.
Il y a ça pour 1300 balles.
Voilà.
Qui aujourd'hui peut pas mettre 1300 balles dans un volant?
Alors, attends, 1300 euros pour ceux qui ont l'image, ce volant-là, le Fanatec. Avec ce pédalier.
Faut reconnaître que c'est une tuerie quand même.
Et non, il y a le système d'accroche en métal.
Et
le volant devant qui le rend
compatible. C'est pas compris.
Attends, ça, c'est une bécane. Ça part dans tous les sens. Monter progressivement les prix. Maintenant, on arrive tout en haut. Alors ça, en fait, c'est une machine de fou parce que j'ai testé. Je l'ai reçu juste avant.
Des pédales pendant que tu parles.
J'ai reçu juste avant de goûter Forza 6.
J'ai
vu tout ce qui est réglable. C'est un truc de malade. Et donc j'ai testé Forza 6 avec ce volant-là. J'ai failli commencer mon test par je n'avais jamais ressenti ça parce que avec Forza 6 et donc c'est le volant qui a été utilisé par les mecs de Turn 10. Avec Forza 6, c'est un bijou. Les flaques d'eau.
Tu les
avec
ressens
ce volant.
Mais
c'est pire, c'est que tu crois que c'est toi dans ta bagnole quand tu prends la flaque d'eau, quoi. C'est
incroyable. Après, c'est l'impression que ça bouge,
quoi. C'est incroyable. En sachant que les flaques d'eau, par exemple, c'est un truc qu'ils ont vachement bossé sur, ouais. Sur Forza.
Bah, c'est une des belles différences.
Voilà, sur les autres jeux, c'est pas forcément. Hein.
Et même à la manette, t'as l'impression qu'il se passe un truc.
Oui, il se passe un truc.
Quand tu roules dans une flaque d'eau.
Mais là, au volant, c'est faut le vivre. Tu sens vraiment que là où il y a ta roue et en plus c'est pas pareil en fonction d'une roue de roue.
Tu le sens pas avec les autres volants qu'avec
sur la Xbox One, on a trois grands volants de cette gamme là et un peu inférieure compatibles. Il y a le TX de chez Thrustmaster, on le sent moins bien. Le TX, il est un peu moins bien géré par Forza. Je l'explique pas parce qu'avec Project Cars, ça se passe très très bien. Ce volant là est très très bien. Et dès qu'on passe à Forza, bah, c'est un peu mou.
C'est ça qui est un peu pénible, c'est que non seulement tu dépenses plein de thunes, mais en plus, si t'as pas choisi le bon volant pour le prochain jeu qui sort, etc., t'es un peu dégoûté, quoi.
Ah bah, c'est là où faut essayer. C'est là que c'est un.
Une fois que t'as lancé le volant et que le prochain jeu, en fait, il gérait mieux l'autre volant. D'ailleurs, il vaut mieux acheter quoi sur cette génération de consoles? Vaut mieux acheter Thrustmaster ou Logitech?
Alors moi j'ai fait mon choix. Alors,
parce que Fanatec, bon,
t'as Wanda No Orchestra qui te dira qu'il est super content de son G29 ou de ses G920. Voilà, coucou. Et lui, il est super content. Et moi, j'ai été super déçu de ce volant, quoi. Je l'ai trouvé moyen, très moyen.
Tu conseillerais plutôt les Thrustmaster, toi?
Mais c'est plus cher. C'est-à-dire que pour avoir l'avantage de chez Logitech, c'est la qualité de fabrication. D'ailleurs, j'en vois un là, la qualité de fabrication est exceptionnelle. Les plastiques sont de très très bonne qualité. Et chez Thrustmaster, il faut prendre la gamme au-dessus, celle qui se trouve aux alentours de 400 euros, pour avoir le bon pédalier et le beau volant.
Quel est le nom du modèle, du coup?
Alors, tu as le TX, tu as deux versions, tu as le Laser Edition et l'Alcantara. Je crois que sur PS4, c'est le T300 avec Alcantara, et sur Xbox One, c'est le TX avec le Laser, donc du cuir.
Mais en règle générale, de toute façon... Quand tu es souvent fan d'une série de jeux, c'est rare. Bon, là, avec Project Cars, c'est un peu bousculé tout ça, et Assetto Corsa va certainement aussi encore redistribuer un peu les cartes. Mais en règle générale, t'as une Xbox, t'es fan de Forza, t'as une PlayStation, t'es fan de Gran Turismo. Donc en règle générale, où t'es sur PC, donc là le problème se pose différemment, mais en règle générale, tu t'achètes ton matériel, vu le coût du matériel, vu le temps que ça prend pour vraiment explorer un jeu,
c'est vrai.
En règle générale, tu t'achètes le matériel qui correspond à ton jeu fétiche.
Et je crois qu'il y a des partenariats souvent. Par exemple, Project Cars était en partenariat avec Thrustmaster quand ils sont sortis.
Mais au final, Logitech aussi. Donc,
mais Logitech, ils étaient associés.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un volant qui va être compatible PS4. Bon, lisez mes tests, ça sera plus complet, mais grosso modo.
Sur le blog de livre du local.
Grosso modo, le T150. Le T150 de chez Thrustmaster va être compatible avec tous les jeux de la PS4, quoi. À partir du moment où il est estampillé PS4, ce qui n'était pas le cas avant. PS3, tu prenais le G25, c'était pas compatible avec tout. Le T500 n'était pas compatible avec tous les jeux. C'était moins bien géré.
T'imagines
avant
la déception, t'achètes ton jeu. Il n'est pas compatible avec mon volant.
Donc, si vous hésitez à mettre autant d'argent, regardez d'abord si le bon volant est compatible avec le jeu auquel vous voulez jouer.
Le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. En étant
je pense qu'il faut
sûr
fonctionner par budget. Faut que tu lui dises j'ai un budget de
moins. J'ai j'ai fait moins de 200 balles, moins de 400 balles et budget infini pour essayer
alors,
de
budget
prouver.
Infini, si je veux du encore plus loin, si je veux du survérin chez moi.
Ah oui, bah tu prends déjà ça parce que ça c'est une très bonne base. Tu t'ajoutes le système survérin, donc on est à 30 000.
Ça c'est quoi?
Ça c'est le Fanatec, le système Fanatec. Donc c'est la Club Sport Base V2.
D'accord.
Qui est une tuerie, hein. Grâce au volant qu'on voit un petit peu, qui est un volant compatible Xbox One, il rend la base compatible Xbox One. Donc avec une base, tu joues PS3, PS4, Xbox One et PC. Le seul truc, on peut pas jouer à Drive Club. Je sais pas pourquoi. Les mecs, ils ont envoyé la base
non, mais,
de Drive Club.
Mais Drive Club, tu peux jouer à la manette.
Moi, je trouve ça hallucinant.
Drive Club, tu peux jouer à la manette. C'est le seul jeu. C'est un jeu d'arcade.
Oui,
c'est
oui,
pas
oui.
Grave.
Mais bon, moi, je trouve ça hallucinant.
Pas pu le mettre en défaut.
Horrible.
Il y a d'autres choses. Il y a par exemple WRC5. Quand il sort, il est pas compatible avec trois quarts des volants. Trois mois plus tard, au moment où je fais le test, moi, j'ai pas de problème de compatibilité.
Mais ça vient aussi que les éditeurs font des deals avec les fabricants de volants. Donc, quand un éditeur fait un deal avec un fabricant, tu te doutes bien que le fabricant il va dire je veux l'exclusivité, je veux pas qu'il soit compatible
mais
avec
d'autres
volants.
Mais c'est un scandale.
Là où il y a un scandale,
ce qui serait scandaleux, c'est que ce soit
c'est le jeu compatible avec les guitares de Rock Band, de Guitar Hero et que tu arrives à jouer avec les. Bon,
ouais, là, c'est un scandale et c'est pas un scandale. En fait, par exemple, Logitech a fait un gros bad buzz parce que ses volants sur la PS3, qui étaient de très bons volants, surtout pour l'époque, qui sont le Driving Force GT, le G25 et le G27. À la sortie de la PS4, pas compatible. Le volant, le T500RS de Thrustmaster, à la sortie de la PS4, compatible.
Mais il venait de sortir aussi.
Non, il est sorti pour GT5. Ah bon, c'est le volant officiel GT5. D'accord. Donc, ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a un, le deal avec Sony qui s'est peut-être fait au niveau du T500. Encore que j'ai l'impression que Sony laisse un peu les éditeurs faire ce qu'ils veulent, les éditeurs de jeux. Et en même temps, je comprends Logitech qui se dit « Attends, mes volants, ils sont tellement bien et résistants, ils vont tenir 10 générations si on continue, on arrête la compatibilité, on repart sur un nouveau modèle sur lequel il y a une touche PlayStation, ce qui n'était pas le cas avant, etc. »
Pour le consommateur, c'est terrible quand même.
Pour le consommateur, c'est terrible. En même d'ailleurs, temps, sur votre logiciel.
Mais pour le consommateur
le coup,
fortuné, c'est.
Non, mais en plus, ils peuvent le faire. Quand tu
c'est
vas,
une paille.
Quand tu vois ce qu'a fait Street Fighter 4, alors on sort. 5, pardon, on sort complètement des jeux de bagnole.
Non, mais c'est même.
Vous
c'est
savez
qu'il y a
le même problème avec les sticks arcade.
Tout à fait.
Les sticks arcade sont totalement incompatibles, soi-disant, entre la PS3 et la PS4. Ton stick PS3 sur PS4. Et bah, dans Street Fighter 5, ils ont mis une option à l'intérieur du jeu.
Ça, c'est
Sony. Ils te disent, vas-y, branche-le. Tu branches ton ancien stick et il fait tout le.
Ça, c'est Sony qui m'a dit
les drivers
sur la question.
Exactement, les drivers par le jeu. Donc on peut bien le faire.
Voilà. Alors on peut le faire, mais le problème c'est.
Matt Katz
se prend la tête à développer de nouveaux sticks. Parce qu'il faut savoir qu'un jeu PS3, un stick PS3 que tu vas utiliser sur PS4 va pas être 100% compatible. Le bouton PS va pas fonctionner, il n'y a pas de bouton cher, il n'y a pas de bouton option.
Oui, donc tu gardes un
ta manette
un Dual
à côté,
4,
faut pas qu'elle s'éteigne, sinon c'est la même chose avec les volants. Un volant qui est que PS3 et qui fait un peu PS4 aura le même souci, il y aura pas de bouton PS.
Mais après c'est un écosystème, donc quand même au final, quand un éditeur sort un jeu, il peut pas se permettre de pas être compatible. Tu vois, avec
c'est
le
ça.
Volant phare du marché, tu vois, sinon il se coupe vu les coûts, il se coupe d'une partie des joueurs. Donc
ça représente une bonne partie des joueurs, vous pensez?
Ça dépend des jeux.
Volants, ouais.
Sur Project K, ça va. Tu regardes dans le top 100 des joueurs, ça va représenter un bon 30%.
Oui, tu regardes le top 100.
Je prends le pire exemple.
Mais tu prends pas le nombre de gens qui jouent à ce jeu.
Non, tout
à fait.
Tu prends
les plus performants à ce jeu.
Justement, les plus performants. Et donc,
parce qu'à mon avis, si tu prends un vrai. Enfin, je dis à mon avis, je sais pas s'il y a.
Ça doit être du 90-10, 95-5, 96-4.
C'est
une
immense majorité
sur le monde.
On en vient à la deuxième partie de la question avant qu'on passe.
Des joueurs.
Avant qu'on passe à la suite et fin du podcast. C'était le gain de performance sur la route. Est-ce qu'il est perceptible?
Il est pas évident. Project Cars sur. Project Cars assez tôt. iRacing sur Gran Turismo, je dirais oui, mais je vois des
mais
mecs qui jouent la manette.
Mais comment
on peut
mesurer ces choses-là d'ailleurs? Je me pose
dans
la question.
En ligne,
tu vois qui joue en ligne. Même de toi, de
mais
manière générale.
Tu vois
générale,
les mecs de la GT Academy, tu peux leur mettre un volant, une manette.
Ouais, c'est ça en fait.
Ils restent
ça.
En haut du classement. Hein.
Ouais. C'est ça. La compréhension du système, du moteur physique du jeu, c'est ça qui compte. Mais le volant, c'est surtout des sensations.
Parce qu'il y a un autre truc dont on
ne
parle pas, c'est que aussi. Dans la mesure où c'est une interprétation, que c'est pas des courses réelles avec des vraies voitures. sûr. Bah, hey, chaque jeu, t'as quand même des petites techniques que tu développes, qui sont des petits tricks.
Je me rappelle parfaitement.
Donc tu n'es pas totalement aussi pur que le serait avec un vrai pilote sur un vrai circuit.
Grand
parce
Turismo...
que lui, bon bah la voiture, hein, la trajectoire, il y en a qu'une. Il y a le chrono,
C'est ça.
Grand Turismo 2. Je vous rappelle. Grand Turismo 2. Il y a eu un concours à l'époque qui avait été remporté par
un mec qui se frottait au mur.
Par Pierre Landouzi que exactement. J'ai rencontré par la suite, qui avait
moi aussi,
gagné chez Boxster.
J'ai suivi.
Bah moi, on est devenu pote par la suite parce qu'on s'est mis à jouer à PES en même temps. Il m'a expliqué effectivement
qu'il a quand même gagné la première année une Viper.
Voilà, Viper. Il a gagné la moto de Tekken 3.
L'année d'après, il a gagné le Boxster. Ouais. Donc deux années de suite, il a gagné
une belle bagnole.
Voilà. Et après, il a gagné une Harley Davidson avec Tekken. Et je l'avais suivi à Londres au final de championnat de Tekken.
C'était un fou. Il n'y avait pas Internet à l'époque et lui,
il était
tout vraiment
aiguilleur du ciel.
Exactement. Il est toujours.
Je pense que c'est là d'où tenait son calme légendaire.
Et en fait, oui, il m'avait expliqué que il connaissait les endroits
exactement.
Où il fallait se cogner avec sa voiture pour repartir sans
exactement.
Être perdu,
ouais,
sans perdre une seconde.
Tu le vois, quand tu joues en mode solo, de toute façon, je veux dire, faut pas se leurrer. Hein.
Moi je touche jamais une voiture concurrente.
Combien de virages on coupe, combien de, tu vois,
combien d'appuis on prend sur le concurrent.
J'aime pas faire ça.
Sur l'IA, je le fais pas.
Ah, des fois, si. Quand je suis 3ème, 2ème, et qu'il reste un ou deux virages, je le fais. Tant pis.
Quand tu te fais les courses où il y a 300 tours, machin.
Tu vas pas faire le gentleman contre des 0 et des 1, on s'en fout.
Juste pour terminer sur les volants avant qu'on fasse la conclusion, est-ce que tu peux donner les meilleurs volants dans 3 catégories, vraiment l'entrée de gamme, genre en dessous de 200 euros?
Il y tient. Il veut absolument.
Je vais vous le dire oralement, mais allez voir mon blog.
Voilà.
Et
donc,
on
est là, on fait une émission sur le sujet, donc on est compris. En dessous de 200, jusqu'à 400 et au-dessus.
En dessous de 200, le T150 Thrustmaster, alors on parle avec un maximum de compatibilité, la Xbox One là sur le coup elle y est pas et elle a pas de volant dans ces prix là. Le T150 de Thrustmaster, le pack vaut moins de 200 balles, ça doit être 180
donc ça c'est le meilleur de sa catégorie.
Ouais. Ok. En dessous de 400 balles et ben ça reste le T150 et moi je propose de rajouter le pédalier pro de chez Thrustmaster. Je trouve que c'est mieux que d'acheter un T300 ou un TX.
Ah bon?
Ouais. Mais avec le pédalier pas pro. Et puis si vous êtes prêt à mettre 400 balles minimum,
là
vous avez
Mikasa et Tsukasa,
alors 400 balles ça va être ça, c'est imbattable, c'est un T300. C'est vraiment
c'est
une tuerie.
C'est
mieux qu'un T500 vraiment, avec le bon pédalier, avec
T300 RS.
Ouais.
Qui est dont l'équivalent sur Xbox s'appelle
le TX. Le TX, il faut pas prendre la version de base, ça c'est certain. Le volant est très très inconfortable. Et puis après, bah il y a Fanatec, et Fanatec c'est un bijou parce que tu fais des choses avec le Fanatec qui sont incroyables. T'es en course,
tu peux faire des haltères avec le Fanatec.
Oui,
c'est génial.
Tu prends des...
mais ça c'est incroyable.
Tu peux préparer la course.
Mais là t'explose le budget à 1300 euros.
Oui, là t'explose le budget à 1300 euros, mais là tous les jeux qui sont ne serait-ce qu'un peu compatibles deviennent hyper intéressants à jouer parce que tu règles tout depuis le volant. C'est le volant qui décide. Le SDK du volant est hyper complet.
Après, quelqu'un qui joue vraiment beaucoup, qui est passionné de ça, qui passe des heures et des heures et des heures et des heures, qui sait d'avance qu'il va garder pendant très longtemps, je veux dire, le Fanatec, c'est vraiment la bonne solution. Hein,
Mais après, bon, je vous le dis, il y en a qui préfèrent le Logitech G29 ou G920. Moi, je trouve qu'à ce prix-là, ça le fait pas. Par contre, s'il y a une belle offre de prix, des fois ça tombe à 250 balles, là faut y aller parce que ça vaut le coup.
Ok, très bien. Eh ben, écoutez, on va passer.
T300, moi je vote.
Moi je vote T300 aussi.
Ouais,
et donc TX.
Vraiment.
Ouais.
Ok. Eh ben, écoute,
et je
te passer...
trouve dur avec le T500, mais.
Non, il est bruyant le T500.
C'est pas faux.
Il souffle très fort.
Ouais,
c'est vrai.
On va laisser.
Sinon, c'est les mêmes sensations.
C'est vrai. C'est raison.
Allez, on va vous laisser un moment, je pense, après, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes trouvés un petit peu. Qu'il y a une romance qui vient de naître. Non, on va passer à. C'est pas celui-là. La romance, c'est celui-là. Voilà. Quand il y a un petit peu de romance.
Mais alors, il faut qu'il y ait un ralenti là.
Ouais. Oh, pas besoin.
Et puis un regard.
Vos cœurs ont déjà ralenti depuis tout à l'heure. On va passer à la fin un petit peu de ce podcast avec l'avenir, j'ai envie de dire, du jeu de course. On a évoqué Assetto Corsa qui arrivera sur console.
Oui.
Il y aura le nouveau Dirt aussi qui va arriver sur console, qui
est
déjà sorti
Rally.
sur PC.
T'as pu essayer?
Alors moi j'ai essayé sur PC, alors pas mon PC, donc j'ai pas pu jouer bien longtemps. C'est le meilleur, oui. pour l'instant des
meilleurs
trois
jeux de rallye. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu déçu et par WRC5 et par Loeb. Sébastien Loeb.
Oui,
et
mais
Sébastien
pas pour Loeb. Les mêmes raisons. Et les deux sont un peu décevants.
Voilà. Et il y a aussi forcément GT Sport qui va avoir droit à une bêta cette année, c'est ça? Comment ça va se passer pour GT Sport?
Écoute,
Cyril, on sait que.
Allez, Cyril, allez. Ça va être compliqué.
Ouais. Ah bon,
c'est tout ce que je peux dire.
Compliqué pour quoi? Pour la démo.
Il devait se passer des choses en mars. Après,
ils avaient dit, ils avaient dit bêta en début d'année.
Elles ne se passeront pas en mars.
On n'entend plus parler de façon. Pour
de ce que j'ai vu, ils ont encore beaucoup de boulot à faire. Est-ce que le jeu sortira à la fin de l'année comme
comme c'est prévu,
comme on l'espère chez Sony? J'en suis pas persuadé.
C'est pas la première fois qu'il se rate Noël, quoi.
Alors repasser dans le podcast dans 10 ans, Cyril nous dira. Bah Yamauchi nous a dit que effectivement sur PS4 c'était
après,
c'était relou de coder.
GT Sport, j'ai pas vu parce que
je pense que ça va être un GT 6 plus avec
l'e-sport.
Non,
non, non, j'y crois pas.
Ouais,
non,
voilà.
Non,
alors,
non, j'y crois
non,
pas.
Moi,
un vrai GT 7.
Je pense clairement que ça va être une version dédiée à l'e-sport.
Il s'appelle pas GT 7, c'est pas pour rien.
J'en suis persuadé. Le deal avec la FIA.
C'est un jeu e-sport.
Ah non, mais c'est la mode à ces temps-ci d'enlever les modes solo, d'enlever les modes.
En plus, ça serait honnêtement, vu le retard qu'il a acquis sur Forza, ça serait le moyen de revenir dans la course par rapport à Forza, qui là, pour le coup, côté e-sport.
Et puis régularité, il est là.
Et un peu.
Oui, il est pas très e-sport, Forza 6.
Il n'est pas sur la bonne console.
Et il y a un moment, on voit avec WRC qui a réussi son entrée pour le rallye en e-sport. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des jeux de course quand même. Parce que jusque-là, il y a que Trackmania quand même en e-sport. C'est un peu lège.
C'est vraiment pas le même style.
Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de
vrais jeux de course.
De vrais jeux de course
mais la guerre,
e-sport,
elle va être super rude. Parce qu'il y a GT Sport, il y a Project Cars 2 qui arrive. Il y a assez tôt qui vient juste de naître. Voilà.
Qui sera sûrement annoncé pour la fin
de l'année. La concurrence, elle va être monstrueuse.
Mais
parce
ils vont
que...
pas tous sortir en même temps quand même, parce que Project Cars 2, c'est assez loin quand même.
Oui, c'est assez loin, mais tout d'un coup,
GT
on a quand
Sport,
même Project Cars.
On espère
quand même...
que c'est le plus proche d'ici. Forza 7, Forza de toute façon, c'est tous les deux ans.
Ouais. Alors, Forza, j'étais en décembre chez eux, ils avaient l'air à la cool. Hein, donc, à mon avis, je peux vous dire que le.
Pourtant,
le
ça 7, se vend pas. Hein.
Le 7.
C'est peut-être pour ça qu'ils sont à la cool.
Ouais.
Il y a pas de 7.
Je peux vous dire que le 7, à mon avis, il est pas pour tout de suite. Hein.
Ouais.
Et effectivement, je pense Forza 2, Forza 3, pardon, elle sera. Forza Horizon 3, elle sera, à mon avis, plus dans les tuyaux.
Mais là,
bon, ça va être une lutte âpre en tout cas en ce qui concerne les jeux de course.
Bah, tout dépend si Gran Turismo fait ce qu'il fait d'habitude. Gran Turismo arrive et dit tiens, donne-moi mes 10 millions et hop, il prend 15 ou 20 millions par console. À chaque fois, il prend même plus que ça sur
la prochaine belle attraction, entre guillemets, ça va être de voir la sortie d'Assetto Corsa sur console. Donc c'est cet été, c'est ça?
Ouais, c'est ça, juin, je crois.
Et puis GT Sport, découvrir à quoi ça ressemble et quand est-ce qu'il va sortir, etc. C'est ça les deux. Prochain gros temps fort du jeu de course.
Mais il va y avoir un autre temps fort, et ça il faut qu'on l'évoque avant de passer au hors-jeu, c'est la réalité virtuelle.
Pardon, excusez-moi.
Bah, je sais. Ah oui, c'est vrai.
Ah ouais, non, mais tu vois,
j'ai presque oublié qu'il y avait Cyril dans la salle au moment où j'ai dit réalité virtuelle.
T'as essayé la réalité virtuelle avec un jeu de caisse?
Écoute.
Faut parler dans le micro.
Parle dans le micro, vas-y.
T'étais pas pressé, toi?
T'as essayé de rester une heure avec un casque sur la tête?
Non, alors je suis d'accord avec toi.
T'as essayé de rester une heure avec un casque sur la tête?
Non, et voilà. Je vois bien ce que tu veux dire.
Et combien de temps tu joues sur un jeu de course?
Tu joues 4h, 5h.
Voilà, allez. Question suivante.
Je pense que c'est pas au point pour cette raison-là, et parce que ça bouffe du graphisme à Google. Donc c'est vrai que ça sera
en
pas...
plus. Mais imaginons un Project Cars 2 avec un casque
de réalité
virtuelle.
Vous avez vu ce qu'avait dit Nvidia, hein. Il faut 8 fois plus de puissance...
Ils le feront,
équivalent, faut 8 fois plus de puissance de calcul pour un casque de VR. Donc
c'est pas 2 fois plutôt?
Non, c'est 8 fois.
Ah bon?
Ouais. Mais pour des sensations qui peuvent être
je vous retrouverai
suivant les personnes, 5, des sensations 7, qui peuvent être extraordinaires.
Enfin c'est plus.
Oui, mais un jeu de course où justement le côté il y a le moteur du jeu bouffe énormément, il y a tu reproduis la réalité. Donc il y a tous les aspects de lightning tu vois la physique des voitures, l'IA des
oui, le processeur, sont largement mises à partie.
Il y a plus de choses à afficher, mais en fait on parle d'avenir, donc du coup ok, peut-être que GT Sport sort en même temps que la VR de de Sony, ça va pas être exceptionnel, ça pourrait être un petit peu sympa, mais pas exceptionnel. Par contre, c'est clairement l'avenir. Il y a aucun jeu, aucun type de jeu qui va autant se prêter à ça. T'es
exactement.
Je suis absolument pas d'accord. Je vais vous faire une autre démonstration. Un Oculus Rift, c'est 600 boules. Qu'est-ce que vous préférez?
741 pour nous.
Voilà, 741. Qu'est-ce que vous
non,
préférez?
Mais une fois que t'as acheté,
vous achetez un volant,
tu mets un PC à 4000 boules.
Non, mais imagine, t'as la planche à billets chez toi, et oui, effectivement, t'as déjà le volant.
Non, mais arrêtez, c'est surréaliste. Combien de jeux et de volants tu peux t'acheter avec le prix d'un
casque? Ah, bah tu l'appelles,
génial. Faut par l'argent, parce qu'ils ont l'air bien payés.
Salut Julien.
Ça va bien?
Alors Julien qui intervient.
Qu'est-ce qui se passe?
Parce que ça parlait salaire.
Il faut que tu viennes sauver la réalité virtuelle. Parce que là on a le troll Cyril là qui est.
Voilà.
Oui, non, pas la réalité virtuelle.
Moi
ce que j'en pense, c'est que
comme
le disait Olive, il n'y a pas de meilleur genre que celui-là pour exploiter, en tout cas au début, la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que d'ailleurs Sony recherche quasiment que des concepts qui se jouent assis. Parce que dans une bagnole, t'es assis, tu bouges pas et tu regardes autour de toi. Et on parlait tout à l'heure de ce problème de champ de vision à 180 degrés qu'on a dans la réalité, et qui, quand on joue à un jeu de bagnole, il est complètement coupé par le bord de la télé.
Sauf si on peut, là, si on a trois écrans, bam, comme toi, Olivier.
Tout s'ouvre. Et Julien, je crois que tu as joué.
Je viens de découvrir le nœud papillon de plume.
Ouais, je l'ai depuis ce matin, personne n'a fait gaffe.
Si, moi je l'ai vu tout à l'heure. T'as joué à Drive Club.
J'ai joué à Drive Club, effectivement, en réalité virtuelle. Et
c'était pas le même jeu.
Et depuis, il a des lunettes.
Des grosses lunettes.
Non, non, blague à part, c'était assez saisissant. Parce que moi, j'ai véritablement ressenti quelque chose que je ressens absolument jamais quand je joue à un jeu de bagnole, aussi bon soit-il.
Ou même quand tu conduis, parce que t'as pas le
permis. C'est la sensation d'être vraiment dans une bagnole, c'est-à-dire tu sens les vibrations.
J'allais dire la gerbe. Hein,
ouais.
Mais non, t'as pas léger.
Tu tournes la tête pour regarder les voitures qui arrivent derrière, plutôt que regarder un petit rétroviseur. Quand elles sont sur le côté, tu te situes en 3D, et au niveau des points de freinage, d'accélération, en fait, tu les sens beaucoup mieux, parce que en fait, comme en plus ça bouge de manière plus réaliste, et ben je sais pas, j'étais
en
avec un siège baquet et tout, c'était vraiment très...
En sachant que Julien n'a pas son permis de conduire, hein,
oui,
quand même.
Mais en sachant qu'à chaque fois que j'ai un volant et des choses qui sont en 4 roues, je m'en énerve pas mal.
Je suis absolument pas d'accord avec ça. Bon, bah alors sur les casques de réalité virtuelle, c'est un débat qu'on a avec Julien depuis maintenant des mois et des mois et des mois et des mois. avec des positions diamétralement opposées.
Moi je venais juste pour faire coucou. Hein. je veux pas interférer.
Venez pour faire coucou, il s'est fait casser la gueule. Plus l'histoire avance, plus ça me donne raison. Donc ça m'a très bien.
T'as déjà fait de rats envers. Épisode 2,
regarde tous les analystes.
Mais
regarde
bien sûr,
toutes les
mais
personnes
bien sûr,
qui sont là
voilà.
à te dire que ça va être une révolution
voilà, les
sans précédent.
Les gens qui se précipitent sur l'Oculus Rift
pour
l'acheter.
Mais non, mais ça, c'est pas le problème. Mais c'est pas le problème. L'Oculus, c'est fait pour un public pour l'instant qui est très technophile, qui a effectivement beaucoup d'argent à mettre. Mais on s'en fout.
Et ça le restera.
Tous les peut-être pour la première génération, mais c'est pas grave. Tous les analystes seront là pour te dire que le cardboard de Google sera celui qui va démocratiser dans un premier temps les choses, et que les gens vont être confrontés à la réalité.
Rappelle-moi, sont les mêmes analystes qui avaient dit que les consoles de jeux vidéo c'était mort.
Non, pas du
voilà.
tout.
Bah, si.
Non, mais c'est pas les mêmes.
Mais si.
Non,
mais
non,
si.
Pas du tout.
Mais bien sûr.
Mais j'ai jamais entendu
toujours
dire que les consoles de jeux étaient mortes.
Le jeu PC, j'ai entendu déjà, mais.
Souviens-toi, au lancement de cette génération, tout le monde avait.
Non, mais c'était pas des analystes. C'était des analystes de la petite semaine qui étaient là et qui essayaient de mettre leurs fantasmes collés sur des trucs. Je me rappelle de débats que nous avons eu dans ces podcasts.
Un ami.
Ah non, non, non. Alors après, c'est pas analyse de la petite semaine. Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu effectivement sur Gameblog avec Nico, qu'on aime beaucoup et à qui on fait un coucou.
Mais malgré tout, qui est un sale con, faut le dire. Hein,
qui en tout cas voilà. n'a pas visé
non,
très juste sur ce coup-là.
Salut, Nico.
En nous disant qu'effectivement,
que ça va.
Cette génération, ça allait être une catastrophe, des machins. Et je me rappelle justement que nous disions, écoute, des indications qu'on a, des machins, ça va être plutôt un carton. Et je crois que donc la PS4 est en train de réaliser l'un des démarrages les plus saisissants de l'histoire.
C'est fait,
parole de Gameblog qui avait raison. Tout comme sur les smartphones et les machins.
Pour te répondre quand même, Julo.
J'y vais, moi.
Allez, merci à Julien.
Au revoir.
C'était cool de passer.
Merci.
La caution réalité
tout de suite,
virtuelle. On t'appelle si on a besoin de toi.
Je suis étonné, on n'a pas parlé religion.
C'est ça.
Ouais, pour l'instant.
Pour...
Alors voilà, attends.
Pour revenir. C'est plus l'heure des gâteaux. Pour revenir à.
Non. Casse-toi, Julien.
Pour revenir.
Casse-toi, pauvre con. Casse-toi, Julien. Alors, Cyril.
Un peu de sérieux.
Oui, c'est vrai. Ça
je veux dire, c'est pas les caisses de réalité virtuelle qui apportent le plus. De réalisme,
non, mais
d'immersion. Mais non, c'est pas vrai, parce que c'est pas ce qui manque le plus, le côté vision. Ce qui manque le plus, encore une
mais
fois, on
oh,
l'a
quand
dit
même,
tout
quand
à l'heure.
Même, attends, tu ah, joues.
Ouais, je suis
non,
sûr,
non,
c'est les sensations.
Cyril, tu conduis, t'entends le mec, parce que maintenant, avec les casques, là, t'as du 7.1. Donc, t'entends qu'il y a un mec vers ta gauche, tu peux pas faire ça. Et aussi, il y avait Forza.
Très bien.
Forza 6, je le gère plus, mais Forza 5, le faisait.
Même.
Fallait faire
comme ça.
Honnêtement.
Le mec était là, c'était un truc de.
Soyons pragmatiques sur une seule chose qui concerne le casque de réalité virtuelle, c'est que même quand t'as des graphismes pourris, mais quand je dis pourris, que tu te balades dans un environnement en 3D, disons le plus simple possible, sans texture,
tu le ressens.
T'as déjà une sensation qui est incroyable.
Pendant
ton cerveau est complètement grugé et croit que t'es en train de bouger.
Pendant 5 minutes.
Ça peut durer
et
plus
après,
que ça.
Ça
hein.
devient insupportable. Et tu le sais,
ça dépend des personnes.
Des caisses de réalité virtuelle, on en a essayé depuis
des
années.
Oui,
mais à l'époque, c'était des temps de latence impossibles.
Quel changement ? À part que le graphisme est meilleur, à part que la résolution est meilleure.
La
graphisme, taux de rafraîchissement, résolution, et surtout temps de latence. Le temps de latence n'existe quasiment plus aujourd'hui.
Et encore une fois, je vous le dis, essayez de tenir une heure avec un casque sur la tête.
Mais il y a des gens qui réagissent pas pareil.
Mais c'est pas une moi, je peux question te dire que des yeux ou quoi que ce soit.
Ah si, il y en a qui ça donne des maux de tête immédiatement.
Non, mais
il y en a d'autres.
T'aurais été contre le rock'n'roll, toi, c'est ça.
Mais et le Minitel aussi, hein, c'est
pas,
ça. Et le jeu de rôle, c'est l'instrument du diable.
Non, mais c'est la marche de l'histoire. C'est presque. Alors je dis pas que tout le monde jouera comme ça, mais moi j'ai qu'une envie, c'est que.
Qui a décidé que c'était la marche de l'histoire?
C'est ma marche de mon histoire qui veut que moi, quand le casque de PlayStation VR sort, je vais avoir vraiment envie de tester un jeu de bagnole dessus. Parce que je me vois bien conduire. Gérer ça avec le volant dans les mains et ne plus voir que mon véhicule, quoi. Je ne verrai plus que ça. Et ça me botte, quoi.
Je pense qu'on vous mettra pas d'accord.
Non,
avec Cyril.
Non, mais c'est.
Moi, j'ai fait la conférence PlayStation du Paris Games Week à côté de Cyril. Le moment où on en est venu au PlayStation VR et que j'ai entendu pouffer à côté de moi. Oh, tu parles, etc.
Ça va faire comme Kinect, ça va faire comme tous ses accessoires. Ça va durer 3 mois. T'as des early adopters qui vont acheter ça parce qu'il faut absolument acheter ça. Les gens qui ont un peu plus de sens, ils sont. PlayStation VR, je crois qu'il va être dans les 300 euros à peu près. On a entendu parler de 299 euros dans ces eaux-là. Regarde le nombre de jeux que tu peux t'acheter pour ce prix-là. Je veux dire, vaut mieux s'acheter des jeux que d'acheter un truc comme ça que tu vas utiliser comme une Wii première génération que tu vas utiliser 10 minutes et puis qu'après tu vas ranger dans ton placard.
Je suis d'accord qu'il y a ce risque-là et qu'il est évident, mais si on veut que ça aille dans ce sens-là, et moi j'aimerais bien que ça aille et que ça se progresse dans ce sens-là.
Mais pourquoi ? Mais non, en plus je suis pas d'accord. L'immersion, elle viendra des jeux par eux-mêmes. Pourquoi inventer des accessoires à la con comme ça ? C'est les jeux qui nous apporteront l'immersion.
Parce que tu.
Plus ça sera réaliste.
Bon, en tout cas, avec cette punchline de Cyril pour finir ce podcast, cette punchline anti-réalité virtuelle, je pense qu'on sera.
Mais pro-volant.
Bien.
Finalement.
Ah, mais oui,
je m'attendais à du pro-manette.
Ah, non, pro-volant.
On sera bien pareil en tout cas avec
voilà,
ça.
Ça,
le troll alors, ultime
voilà,
de la.
Je suis d'accord, allez, relançons le débat. Non, mais ça, je suis d'accord. Et comme je le disais tout à l'heure. Tu vois, plutôt que foutre 600 boules dans un Oculus,
c'est la classe quoi. Tu joues à un jeu de bagnole
bon
comme
et,
ça,
et là,
c'est la classe.
Et là, il l'a dit, et je suis d'accord avec lui. Là, t'auras de l'immersion. Elle est là, l'immersion. Elle est pas, tu vois, avoir un truc sur la tête.
Mais tu peux avoir le tout en même temps. Enfin bon. Vaste débat, Cyril, les vastes trolls aussi. Merci.
Absolument pas. Alors là, non, vraiment, Julo le sait, hein, je suis convaincu là-dessus. Hein, c'est pas du tout.
Ah, convaincu, ça c'est clair.
Là, c'est argumenté. C'est
et
argumenté.
En plus,
ah oui, ça l'est.
Et
oui.
En plus, tu dis que c'est la marche de l'histoire. Moi, j'ai vécu la marche de l'histoire du jeu vidéo depuis un bout de temps.
Ah, tu me prends pour qui et moi aussi, j'ai grandi avec Pong.
Et tous ces accessoires n'ont jamais marché.
Ça, c'est vrai.
Jamais, jamais, jamais. Alors, il peut y avoir. On n'est pas à l'abri d'un changement.
Il n'y a jamais eu un succès commercial et une vraie réalisation technique, même Kinect 1, voilà.
Dès que tu dois acheter un accessoire supplémentaire, de toute façon, ça ne marche pas.
Ne marche pas.
Ça se défend.
Après, tu peux le voir comme un accessoire ou comme un remplaçant de la télévision. Et à ce moment-là, c'est pas pareil.
Oh.
Mais bon,
C'était pas pour relancer le débat.
Voilà, on va conclure quand sur cette
c'est
partie.
Pas, en plus, c'est pas friendly du tout. T'es entre potes. Tu vois, c'est sympa de jouer. tu vois, sur son canapé avec des potes et tout. Là, tu vois, tu peux
faire du match.
Tu peux faire des blagues, par contre.
C'est comme
non, fin du match. Fin du match, c'est bon.
Mais je peux faire des blagues.
Tu peux faire des blagues.
Alors, comme chaque semaine, Cyril, Olive et Julo, effectivement, on tire les feux d'artifice pour la séquence hors-jeu. Vous le savez, chaque semaine, on a envie de vous parler de séries, de films, de mangas, de bouquins aussi, parce que ça nous arrive de lire. Et on va commencer par Olive. Tu as envie de nous parler d'une émission qui se trouve sur Internet.
Ouais, c'est joli, est-ce que c'est, comme ça. Est-ce que c'est, ça fait vieux, c'est... vieux, ouais.
Mais Internet, ça remplacera jamais la télévision.
Alors là, ça c'est faux. Pas.
Mais tu l'as dit,
ah,
je crois.
Ah oui, ça a déjà remplacé la télévision. T'es déjà en retard.
Carrément, j'ai plus de télé à la maison.
La télévision classique.
Plus d'antenne, plus de télé.
Je devrais pas dire, mais c'est déjà mort.
Donc ouais, moi j'ai découvert en retard parce que aujourd'hui, on est quasiment 700 000 à suivre cette chaîne YouTube, c'est e-penser, e-penser, le verbe, hein, donc e-p-e-n-s-e-r. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Donc ça va te parler de.
De réalité virtuelle il y a pas très longtemps.
Ouais, il a sorti un épisode qui est pas mal et qui m'a fait bien rire d'ailleurs.
Et ça aborde tous les sujets comme ça.
Alors bon, il y a pas mal d'heures déjà. Il a pas tout abordé, mais il va parler de physique, il va parler de chimie, d'astronomie. C'est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Il a une façon de vulgariser qui est entraînante. Alors des fois même.
C'est drôle surtout.
Ouais, c'est drôle.
C'est drôle parce qu'il crée plusieurs personnages à l'intérieur même de sa petite case dans laquelle il se trouve, quoi. Et c'est la façon dont il fait interagir parfois les personnages entre eux.
C'est ça. Il y a plusieurs types d'émissions. En plus, tu as des émissions hyper courtes où il va vite te balancer une info. Pourquoi est-ce que le bâillement est communicatif? Pourquoi est-ce qu'il y a des chats, énormément de chats sur Internet? Donc des sujets comme ça qu'il va traiter de façon scientifique.
Mais ça, c'est des trucs que Vandel fait aussi sur France Inter d'ailleurs. Ça me fait penser à ça.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est pourquoi
France Info, oui. Ouais. L'excellent Vandel, hein, parce que j'adore ses interviews. Ses interviews sont exceptionnelles.
Monsieur Vandel, si vous nous regardez, je sais exactement où il habite, je le crois de temps en temps, mais j'ai jamais osé l'aborder. Sachez que je vous adore aussi. Voilà.
Voilà, donc Bruce Benhamran, qui en plus fait la première partie d'Alexandre Astier sur l'exoconférence.
Ouais.
Et donc c'est
qui paraît-il d'un spectacle extraordinaire.
Ah oui, c'est un spectacle extraordinaire.
C'est sur YouTube, tu dis, hein, c'est ça.
Ouais, YouTube, ça s'appelle e-penser, e-penser. Et
ça, j'irai voir, ça m'intéresse beaucoup.
J'ai dévoré ça.
Ah bah, moi, à un moment, tu l'as signalé sur Twitter et j'ai été voir effectivement celui sur la réalité virtuelle. C'est vraiment ultra bien foutu.
Ouais.
Ce monsieur mérite.
Mais ne commence pas avec celui-là, Cyril. Hein. Regarde les autres.
Oui. Non, il est pas pour ou contre.
Je vais aller voir.
Il est pas pour ou contre. Bon, il y a plein de mèmes dedans. Il y a plein de choses à voir. C'est vraiment le truc à reprendre depuis le début. Et quand il y a plus de Game of Thrones, tu vois, commence au mois d'avril. En juin, t'as plus de Game of Thrones. Paf, tu enchaînes sur y penser. C'est le paradis.
D'accord. Alors, on va passer à ton hors-jeu de la semaine, Cyril. Alors, moi, j'ai envie de dire hérésie. Les dessins animés, c'était pas ça moi quand je suis né, les dessins animés c'était des trucs au crayon. Maintenant tu regardes des dessins animés en 3D.
J'avais envie de retomber un peu en enfance. Non, je suis tombé un peu amoureux là de Zootropie.
Zootopie.
Ouais. Zootropie, n'importe quoi. Zootopie. Ça m'a fait hurler de rire. C'était devenu un peu la mode de faire des dessins animés avec des animaux, machin. On les a mis dans tous les sens, au pôle Nord, machin et tout. Et là, celui-là, c'est super drôle.
Donc, c'est les créateurs de La Reine des Neiges, de Nouveau Héros. Ça se passe donc du côté de chez Disney, évidemment. Voilà. Et c'est quoi? C'est un renard et une petite lapine,
voilà,
c'est ça?
C'est une flic. C'est deux flics qui doivent mener une enquête.
C'est là où il y a l'extrait avec le paresseux.
Avec le paresseux.
Ah ok, donc il faut que j'aille le voir.
Et rien que cette séquence, elle est
tordante.
Elle est juste magique, quoi. Et tu peux la reproduire tellement dans certains cas de la réalité.
Oui, ça c'est clair.
Quand tu t'adresses
de l'administration française.
Et puis les personnages sont attachants et tout. Et puis voilà. Et puis je reste toujours fasciné par l'image de synthèse. On est une génération qui a vu le passage des dessins animés 2D à ça. Et je rêve, du coup, j'essaie toujours d'imaginer à quel moment nos jeux vidéo ressembleront à ça. Donc, quelle génération de consoles?
Tu retournes un peu en arrière, tu regardes Toy Story premier du nom,
voilà,
et tu fais « Oh là, mais ça y est, le jeu vidéo est passé devant. »
Plus très loin. Il y a la résolution d'écran qui fait toujours
la, mais les textures,
la différence, mais,
c'est fait, hein.
Mais au niveau des textures et de la 3D, donc le, c'est un petit jeu marrant de se dire est-ce que ce sera la PlayStation 7 ou 8 ou la Xbox 12 où on sera à ce niveau-là, où, à quel moment les cartes graphiques de nos PC nous permettront d'avoir ça
en temps réel, précisons-le, parce
que en temps réel, ouais.
En tout cas, tu t'es bien marré.
Avec un masque virtuel.
Ça chante aussi beaucoup dans celui-là ?
Non.
Non, tant mieux, parce que la Reine des Neiges, c'est un peu un des problèmes de la Reine des Neiges, je trouve.
Ouais. Je pense que ça n'a pas été le problème de la Reine des Neiges. Ouais, ça a été ton problème
ouais,
avec la Reine des
Neiges. Problème. Ouais, ouais, ça a dû être le problème chez toi aussi, je pense, à un moment.
Ouh là là, oh là là.
Je pense que chez tous les parents,
non, moi,
ça
j'ai
a dû
essayé
être un
de, la coller dans la tête de mon fils à cette chanson. Et
c'est terrible.
Mais moi je l'ai.
Les
hein, moi j'en ai deux ou trois là. C'est,
ouais. Mais c'est le problème des Disney justement. J'aimais les Pixar parce que contrairement aux Disney, ça chantait moins. Sauf que maintenant Pixar a été racheté par Disney et les Pixar commencent à chanter. Donc ça devient.
Ça me va. Ce rêve bleu, c'est.
Ah bah tu prends les meilleurs là.
Ouais. Ah oui, parce qu'il y a les pires. C'est sûr qu'il y a les pires.
Ah oui.
C'est vrai. Julo, on va passer à ton jeu de la semaine.
Eh bien,
qui nous vient du Japon.
Écoute, oui, tout à fait, du Japon, il y a bien longtemps. J'avais envie de vous parler d'un de mes livres préférés.
Ah.
Ça s'appelle La pierre et le sabre et la parfaite lumière.
Mm-hmm.
Parce que c'est sorti en deux tomes chez nous.
Ouais.
Au Japon, ça a été publié d'abord dans les années 30 dans un grand journal Asahi Shimbun au Japon. Donc, c'est écrit par Eiji Yoshikawa et ça s'appelait là-bas. Musashi. Pourquoi Musashi? Parce que ça raconte l'histoire de ce samouraï, c'est pas vraiment un samouraï.
De ce pauvre escrimeur, comme je
voilà,
envie de dire.
Cet escrimeur japonais, tout à fait cultissime. C'est un peu. C'est un peu comme Robin des Bois au Japon, tu vois. C'est rien à voir au niveau historique, mais je veux dire, au niveau de la stature du personnage, il y a eu 1000 films, 1000 mangas.
C'est un bretteur de l'ère Edo qui est extrêmement connu.
Le manga Vagabond, par exemple. En jeu vidéo, on a également.
Fencer Musashi qui a existé, notamment.
Voilà,
c'est en lien avec ça.
Il y a énormément de films. Là, on est en train de découvrir aussi des images du film pour nos amis premium. Voilà, lui, c'est Sasaki Kojiro, son ennemi de toujours, et ça, c'est le combat final. C'est la toute fin du deuxième livre, en fait, mm-hmm. vraiment la toute fin de l'histoire.
D'accord.
Et donc ça raconte, en fait, c'est le livre référence de ce personnage qui a véritablement existé. On sait qu'il a fait la bataille de Sekigahara, qui est l'une des plus grandes batailles qu'il ait jamais eu au Japon, avec énormément de morts. Et d'ailleurs, le livre commence au moment où c'est un fait historique. Ce personnage a existé.
D'accord.
Il a fait cette bataille. Il a rencontré d'autres personnages historiques de l'époque. Il a véritablement inventé le style de combat à deux sabres. Là, on voit des images de Kengo. Alors, pour vous dire, il a été repris dans 1000 jeux, 1000 mangas.
Kengo, qui est un peu la suite spirituelle de
Bushido Blade.
Bushido Blade, hein, ouais, oui, c'est sur Lightweight qu'il réalisait.
Donc là, vous le voyez à droite, Musashi, il a deux sabres parce que c'est lui qui a inventé ce style. Et on voit comment ça s'est passé dans sa vie
raclé,
qui est romancée à travers ce livre.
Ah, tu veux dire que si Leonardo des Tortues Ninja se bat comme ça, c'est grâce à Musashi.
Bah, bien sûr.
Exactement. C'est génial.
Il a tout inventé. Et alors, ce qui est génial, c'est que, évidemment, donc, ça se base sur un personnage historique que les Japonais adorent. Et ce bouquin est évidemment l'histoire romancée de sa vie, inventée, brodée autour de tous les faits historiques qu'on connaît, et qui fait aujourd'hui figure de référence. D'ailleurs, la vie de Musashi, c'est ça, c'est celle qu'a écrit Eiji Yoshikawa, et
c'est
les
ça,
images
et
du film que tu viens de voir, c'est... c'est le film tiré vraiment du bouquin, comme il y en a eu des tonnes. Et alors voilà, c'est une histoire passionnante parce qu'on découvre en fait comment cette espèce de débouriffé complètement violent et avec absolument rien dans le cerveau va rencontrer, après avoir survécu miraculeusement à une grande bataille, il va rencontrer un maître zen qui va lui inculquer une espèce de rigueur
comme Conan le Barbare, quoi.
Une rigueur énorme. Ça va le transformer, il va changer de nom et s'appeler Miyamoto Musashi par lui-même, inventer un style, créer une école, avoir une vie incroyable, faite de voyages à travers tout le Japon, de rencontres géniales avec d'autres personnages historiques. Et tout ça, c'est expliqué dans ces deux livres qui font 700 pages en tout, et qui sont disponibles chez nous même en format poche, hein, chez J'ai lu, je crois, et qui s'appellent La pierre et le sabre et La parfaite lumière, qui est la suite. Et je vous jure, c'est tellement bien écrit, tellement bien traduit, enfin,
c'est accessible,
je pense, hyper accessible. C'est un vieux bouquin, mais pas tellement, c'est les années 30, donc ça va. C'est passionnant, c'est juste passionnant. C'est l'histoire
de Musashi, qui est un personnage ultra important. Si vous vous intéressez un tant soit peu au Japon, à son histoire, à son folklore, etc., c'est évidemment un bouquin qu'il faut avoir.
Et
lui, c'est un grand classique.
C'est le héros d'un Yakuza aussi, si oui, je ne m'abuse. Le Yakuza qui se passe dans le passé, qui n'est jamais sorti chez nous, il me
semble.
Oui,
tout à fait, tout à fait. C'est à chaque fois, soit c'est sur sa vie, soit c'est inspiré de sa vie. Par exemple, dans Way of the Samurai 4 sur PlayStation 3, l'histoire commence au moment où tu crées ton personnage et tu te relèves du champ de bataille de Sekigahara. Et c'est Eiji Yoshikawa dans ce livre qui a fait commencer l'histoire de Miyamoto Musashi sur ce champ de bataille. Donc c'est un clin d'œil. Parfois c'est une véritable adaptation. Miyamoto Musashi, c'est un personnage incontournable. Voilà. Et ce livre est passionnant. Franchement, malgré les 700 pages, on le dévore. Et c'est un de mes livres cultes. Je vous le recommande fortement. Ça coûte pas cher, c'est en poche. Donc foncez. Et intéressez-vous à ce personnage, même à travers les films, les mangas, les jeux vidéo. Il y a toujours plein de trucs. Voilà.
Très bien. Et bien, on va finir ce hors-jeu avec mon hors-jeu de la semaine. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. Ça s'appelle Fête Fatale. C'est écrit par William Katz. C'est un thriller assez particulier. Alors, l'histoire, ça commence par une jeune femme qui veut, pour les 40 ans de son mari, lui organiser une fête surprise. Mais en enquêtant un petit peu sur son mari, elle se rend compte que des amis, il n'y en a pas des masses. Et elle se rend compte surtout qu'un passé, il n'a pas l'air d'en avoir un. Et en fouillant, en commençant à s'inquiéter un petit peu, en allant voir un petit peu avec la police, elle va commencer à trouver des trucs vraiment pas très cool le concernant. Elle va vraiment avoir des soupçons très forts, et le lecteur avec. Et voilà, c'est très bien écrit. C'est,
ouais, spoil pas trop là.
C'est vraiment vraiment passionnant de bout en bout, parce
et
que
à la fin il se passe quoi,
parce que chaque la fin est magistrale, hein. C'est quelque chose qu'on peut peut-être supposer un petit peu,
ouais,
mais vraiment,
les indices sont dans le deuxième chapitre, au milieu. Là, il y a vraiment la réponse.
Non,
à la
mais
fin.
Vraiment, on peut,
ouais, dès le deuxième chapitre,
on peut le supposer, mais pas forcément. Et pour moi,
non,
c'était une surprise. C'était une surprise totale, la fin. Et surtout, c'est la façon dont c'est écrit, c'est que chaque fin de chapitre, c'est un cliffhanger qui va nous faire, qui va faire qu'on va pas décrocher du bouquin de bout en bout. Et c'est pas un bouquin qui est très long non plus, hein. Je crois qu'il fait moins de 200 pages. Je le conseille aussi fortement. Donc c'est Fête Fatale de William Katz, disponible, je crois, en poche et chez Presse de la Cité.
Pardonnez-moi de revenir sur mon hors-jeu, j'ai un truc qui vient de me revenir en tête sur l'histoire de Miyamoto Musashi et donc de La Pierre et le Sabre. J'ai lu sur la fiche Wikipédia tout à l'heure un fait assez marrant. Apparemment, Luc B. lorsqu'il a fait Nikita, s'est inspiré de l'histoire de Miyamoto Musashi écrite par Yoshikawa.
Ah bon ?
Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est le début, c'est exactement ça.
Ouais, la brute qui est transformée en
exactement.
Personnage sage.
Qui survit sur un champ de bataille, qui est cette pharmacie dans Nikita. Qui va être plus ou moins recruté, entre guillemets, par quelqu'un de droit et d'extrêmement.
Nikita, qui est, on l'oublie, un film majeur quand même.
Ah, moi j'adore. Oui,
qui est une pure tuerie. Est probablement, enfin pour moi quasiment mon meilleur Besson, enfin
mon
Besson préféré, et qui peut se revoir
Léon,
éternellement. Les dialogues sont exceptionnels.
On va vous laisser hein, tous les deux après encore. Vous
beaucoup
aussi.
D'amour dans ce podcast.
Énormément d'amour dans ce podcast. Hein. Mais c'est surtout merci déjà pour vos hors-jeux, messieurs, que ce soit Olive, Cyril, Julo et moi-même. Et puis surtout,
y penser.
Et puis surtout, j'ai envie de dire merci. Pour ce podcast qui était ma foi fort en rigolade, en mauvaise
c'était
foi
bien.
Ouais. Ouais, c'était bien
et
pour
en
moi,
détail aussi
incroyable.
Parce que maintenant
pour
si
moi, c'était
vous,
incroyable
si vous n'êtes pas calé jeu de voiture après ce podcast, si vous n'êtes pas calé au niveau des volants, si vous n'êtes pas paré vraiment pour faire une installation chez vous, c'est que vraiment j'y comprends rien. En tout cas, normalement on vous a donné toutes les clés de bagnole pour ce podcast. Vous savez combien de temps
ça c'est Laurent Baffi,
voilà, combien de temps on passe par vie essayer de retrouver ces clés de bagnole. Vous l'avez pas vu le film?
Non.
24 heures. Bon, 24 heures.
Et le mieux, c'est combien de temps on passe dans sa vie à chercher une place
de parking,
une place
pour
garer sa voiture.
24 heures.
C'est un an de sa vie.
Et alors moi, j'ai une autre maladie. Je vous dirai pas combien de temps ça représente dans ma vie, mais à mon avis, c'est énorme. C'est retrouver où j'ai garé ma bagnole. Ça, une fois que j'ai retrouvé les clés
mais
de la bagnole.
Mais t'as des applications sur iPhone maintenant.
Et j'en ai une. Ça s'appelle Gpark. Mais faut penser à te géolocaliser au moment où tu sors de ta voiture. Voilà.
T'as une autre solution qui est plus simple. Que moi j'emploie souvent, surtout dans les parkings d'aéroports et tout, tu prends une photo avec ton iPhone
c'est ce que
de l'endroit où elle est.
Voilà, je prends une photo. Ça,
donc t'as le même problème que moi alors.
Ça m'arrive.
Ouais, mais parce que nous on se barre en voyage, donc on laisse la voiture pendant
voilà.
une semaine
bon,
à l'endroit.
Je vous laisse. Hein, je rappelle que j'ai ces plein de voitures, donc j'en ai quasiment une ou deux différentes par semaine. Donc il y a un moment où.
On vous dit, tiens, si on vous fait chier, hein, si on peut pas conclure ce podcast,
faudrait que ça se finisse jamais.
Merci en tout cas,
les Gameblogueurs.
Merci beaucoup.
À vous trois pour ce podcast. Merci Poufy encore une fois. À la Sono, à la Réal, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao,
ciao,
salut à tous.